Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
All right, I remember you. And I'll admit I was a little curt that night.
Curt?
Okay, I was an asshole. I can admit that.
Okay.
But requesting Iran from a serious musician is just, it's too far.
My lord, did you just say a serious musician?
Bienvenue dans ce 16e épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À côté de moi, Aurélien aux platines et Guillaume à la batterie. Comment ça va?
Ok, ça va toi?
Oui, parce que comme aujourd'hui, on va parler d'un film musical, je me suis amusé à imaginer quel instrument collerait le plus à l'idée que je me fais de vous. Bah, donc toi, c'est logique, batterie, Guillaume. Platine pour Aurélien, parce que pour ceux qui l'ignorent, il est aussi DJ.
C'est vrai.
N'est-ce pas?
Scratchy Scratcho, on m'appelle.
Bah oui. aujourd'hui, nous recevons deux personnes qui m'ont invité par deux fois dans leur podcast. Du coup, je suis content de pouvoir à mon tour les inviter. Il s'agit de Cyrus North au violon et de Tom Aguilar à la mandoline. Comment allez-vous?
Comment t'as deviné?
Bah, attends, je sais pas, je t'imagine bien la mandoline.
Ouais,
t'es un peu doux
fait
comme
quelques
de la
années.
Bah, t'es très doux. Et violon un peu pour l'intelligence que
bah, c'est gentil,
qui va avec.
C'est gentil,
c'est très sympa,
c'est
ce que je suis en train de dire.
Ouais,
c'est très
clair,
ce que je
c'est clair.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas?
Ok, tu veux y aller, Tom?
C'est parti pour toi.
Ok, je comprends. je m'appelle Cyrus North. Je suis, on va dire, on me connaît généralement pour ma chaîne YouTube qui s'appelle Cyrus North, où je parle de plein de trucs, dont de philosophie. C'est peut-être pour ça que tu as cette image de violon. Et donc les gens pensent que je suis intelligent, je ne suis beaucoup moins que ce que les gens pensent. Et avec mon comparse Tom qui va se présenter à l'instant.
Yes, I. Je m'appelle Tom, bonjour à tous, bienvenue. Ah non, c'est pas mon podcast, pardon, c'est le défaut habituel. Non, on a un podcast, toi, avec Cyrus, qui s'appelle Le Meilleur Podcast, dans lequel on a eu la chance de recevoir JB, effectivement, par deux fois, qui est un podcast dans lequel on débat du meilleur truc de sa catégorie.
Exactement.
JB est venu, par exemple, sur le meilleur réalisateur, et est venu également sur le meilleur méchant au cinéma.
Exactement.
Donc voilà, et donc oui, j'ai la chance d'animer ce podcast avec Cyrus, entre autres projets.
Alors, vous et nous, on partage un point commun que je trouve assez drôle, c'est qu'on est les seuls à posséder un nom de podcast de mecs qui se la pètent, en vrai, alors que c'est pas de notre faute. Vous, vous appelez Le Meilleur Podcast, mm-hmm. Donc je trouve que bah, vous vous la pétez un peu, quand même. Alors que c'est pas vraiment ça, et nous, on s'appelle We Love TFTC, ce qui pourrait laisser croire que tout le monde est obligé d'aimer TFTC.
On s'adore, quoi.
Alors que c'est pas le cas, parce que chez We Love Cinéma, il y a plusieurs, enfin tous les podcasts s'appellent comme ça, We Love MDR, We Love Série, We Love TFTC. Donc voilà, on a des noms de podcasts qui se la pètent, mais pas vraiment dans le fond. En gros, donc c'est notre petit point commun à nous.
Nous, pour être honnête, on l'a choisi aussi parce que c'était genre le meilleur podcast. Bah. Et même en termes de SEO, tu vois, genre quand tu tapes sur Google le meilleur podcast.
Ah, il y a des gens qui tapent ça?
Ouais. Bah,
j'aimerais écouter le meilleur podcast.
On a trouvé le concept. Après, on s'est dit on veut s'appeler le meilleur podcast. Et après, on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on fait comme concept? Tu vois, c'était vraiment le truc de base.
Exactement.
Ça a tout l'idée.
Est-ce que vous pensez être le meilleur podcast?
On est le meilleur podcast.
Enfin, la question est bizarre.
C'est hyper chelou.
Ouais, bah oui, étrange.
Alors, la semaine dernière, je me suis baladé sur l'outil Cinematcher que vous pouvez trouver sur le site de We Love Cinéma. Et j'ai choisi un film qui va être le sujet du jour, à savoir La La Land. Comédie musicale sortie en 2016 et réalisée par Damien Chazelle, qui raconte l'histoire de deux personnages interprétés par Emma Stone et Ryan Gosling, qui, chacun dans leur domaine, le cinéma pour l'une, le jazz pour l'autre, tentent de percer en partant de très loin. Et comme dans la majeure partie des comédies musicales, il y a bien évidemment, au milieu de tout ça, une histoire d'amour qui se joue. Ce film, acclamé par la critique, a fait un carton en salle et a également raflé bon nombre de prix. 7 récompenses au Golden Globe, c'est tout simplement un record, et 14 nominations aux Oscars. Là également, c'est un record, car dans l'histoire, les seuls films à avoir été nommés autant de fois sont Eve de Joseph Mankiewicz en 1951 et Titanic de James Cameron en 1998. Et sur ces 14 nominations, La La Land a obtenu 6 statuettes en 2017, dont celle de la meilleure actrice pour Emma Stone, meilleur réalisateur pour Damien Chazelle à seulement 31 ans, et enfin une forme de consécration pour celui qui a réalisé la musique du film, Justin Hurwitz, puisqu'il remporta cette année-là l'Oscar de la meilleure musique de film, ainsi que celui de la meilleure chanson originale pour City of Stars, un véritable raz-de-marée. Alors je me tourne vers vous, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast. Quel est votre premier souvenir lié à ce film? Et je vais commencer avec Cyrus.
C'est un souvenir compliqué. Je sortais d'une rupture, d'une longue relation, enfin 4 ans et demi, ce qui pour moi, à mon échelle, est long. Après, chacun a sa vision de ce qu'est le couple, hein, finalement.
Alors, en off, juste avant le podcast, t'as dit « je sens qu'on va se taper des barres dans ce podcast ouais. ».
On est sur de l'introspection tout de suite, quoi. C'est,
bah mec, tu me connais, tu m'as dit violon. Voilà. Je suis en train de sortir le violon.
Tu vois, comme quoi
Non, et en fait, j'ai vu ce film. Donc, ce film est sorti au ciné juste après cette rupture. Et bah forcément, il y a des choses qui ont résonné avec mon histoire à ce moment-là. Donc, c'est un film qui m'a marqué à ce moment-là. Et ça, c'est juste l'aspect émotionnel du film. En dehors de ça, j'ai été... je me souviens, on en avait parlé à ce moment-là. J'étais bluffé. Je l'avais vu en plus aux États-Unis. Donc, j'étais à Los Angeles à ce moment-là. Donc, j'étais vraiment...
dans l'ambiance.
J'étais dans l'ambiance du truc. Et j'ai trouvé, je faisais, c'était une période où je faisais plus attention peut-être à l'image, tu vois, tout ce qui est photographie, tout ce qui est voilà, les chefs-op, etc. Je commençais à m'enseigner sur tout ce genre de trucs. Et à La La Land, il y a énormément de trucs là-dedans. Tu vois, genre, t'as énormément de mouvements de caméra à aller chercher, t'as énormément de lumière, énormément de trucs.
Et surtout les couleurs, parce que c'est un vrai Exactement. Hommage à la Technicolor.
Ouais.
Tom. Donc, oui, pardon.
Et donc voilà, j'allais conclure.
Mais, yes. Tom.
Moi, ce qui revient en premier, c'est que c'est une œuvre totalement maîtrisée. Quand j'y repense, c'est vraiment un truc évoqué de le truc est maîtrisé de A à Z, que ce soit le fond, la forme, etc. Dans mon inconscient, c'est vraiment cette œuvre-là, c'est une masterclass de cinéma pour moi. Et après, plus personnellement, ce qui revient, c'est la performance d'Emma Stone qui est incroyable. Il faut savoir que je voue un culte pour Emma Stone, donc du coup, forcément, l'affect joue beaucoup. Et cette scène d'intro, quand même, qui est assez mythique, qui revient aussi vite quand je pense au film.
Guillaume, ton premier souvenir de ce film ?
Ben, le premier souvenir, je crois qu'on l'a vécu ensemble parce qu'on a dû le voir en avant-première tous les deux, je crois.
Exactement.
Jean-Baptiste. Mais, non, effectivement, tu parlais de la scène d'intro. Moi, à chaque fois que je repense à ce film, je repense à la scène d'intro. Et je me disais, enfin, déjà, tu t'en prends plein la gueule. Tu dis, attends, ça commence comme une sorte de, pour ceux qui ont la référence, le clip de REM, Everybody Hurts, où en fait, c'est un embouteillage où les gens sortent des voitures. D'un seul coup, ça se met à danser dans un long plan séquence où après, j'avais lu des trucs de rabat-joie, genre, allez, on voit tous les raccords, tout le monde se branle sur ce film, c'est de la merde technique. Franchement, s'il y a bien un film où, quand tu dis que c'est nul, t'es un rabat-joie, c'est La La Land.
C'est clair.
Franchement, tu vois ce que je veux dire? C'est juste de l'entertainment pur. Tu vois, ça pète dans tous les sens. Je trouve ça hyper jovial en réalité comme film. Et voilà, je garde évidemment un très bon souvenir. Je l'ai acheté en Blu-ray, figurez-vous.
Ah ouais.
Steelcase ouais. ou pas Steelcase?
Il est en Blu-ray parce que ma femme l'avait pas vu et du coup, elle l'a vu et elle l'adore aussi. Donc voilà.
Ah, c'est beau ça.
Aurélien.
Moi, c'est vrai que la scène d'entrée, j'étais pas prêt. Donc, je sais pas, tout le montage, la choré aussi, en fait, d'arriver à mettre autant de gens dans une synchro, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas vu ça dans un film, mais même, tu vois, dans un spectacle, je trouvais ça impressionnant. Et après, perso, moi, c'est la scène qui me revient tout de suite, c'est celle à l'observatoire de LA, en fait. Ouais. Ça a toujours été un lieu que j'ai kiffé à Los Angeles et je sais pas, je trouve il en a créé un univers presque onirique et tout. C'est là où il se passe un peu une sorte d'ambiance de rêve, je sais pas, j'aime bien le planétarium, les visions qu'il a à ce niveau-là, qui sont sur les hauteurs, quand ils sont au balcon et tout. Tous les visuels, ils m'en viennent de cette scène-là. Ouais.
Mmh. Le Griffith Observatory.
Exact. Ouais. Lui, c'est un mec qui a été à LA, il connaît les vrais noms.
Ah bah, j'adore ce lieu, pareil. Moi, c'est un de mes lieux préférés à Los Angeles.
C'est trop beau.
C'est vrai.
Moi, il y a juste une ref, je suis désolé, je peux rappeler sur la scène d'entrée que je pense que j'ai partagé seul, mais qui m'a tout de suite évoqué une scène de voiture dans Dingo et Max.
Ah oui.
Voilà, je serais sûrement seul à avoir cette ref,
non,
mais
c'est beau, c'est beau.
Je pense qu'on ne parle pas assez de ce film, mais voilà.
Bah mec, je te respecte en fait.
Hyper sympa.
Moi, mon premier souvenir de ce film, bah, c'est avec Guillaume, parce qu'on l'a vu ensemble. On l'a vu dans ma première, mais un des souvenirs que j'ai également, c'est qu'après le film, on était allé manger une pizza à Pizza Pino, elle était dégueulasse, tu t'en rappelles?
Ah ouais.
Bah ouais, voilà.
Exact.
C'est relou parce qu'à vie, j'aurais un souvenir de La La Land avec la pizza chez Pizza Pino.
Combien sur 10 la pizza?
Bon, 4.
4. Pizza Pino des Champs, 4 sur 10.
Voilà. Ouais, c'est
non,
pas ouf chez le
Pino. Ouais, c'est
mauvais. C'est pas inopé du tout, du coup. mais moi, j'avais bien aimé le film. Et puis après, je me suis rendu compte que bah, ce film, et je m'y attendais pas forcément en le voyant, qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ce film devient un film culte pour la génération, pour la jeune génération de maintenant. Et que tout le monde cite ce film comme son film préféré dans un top 5, etc. Vraiment, je parle des jeunes qui ont genre entre 18 et 25 ans. Et ce film, il a vraiment marqué les gens. Et je m'y attendais pas vraiment quand je l'ai vu. Je savais que je regardais un film qui était vraiment bien maîtrisé, qui était cool. Moi, de base, je suis pas forcément un gros, gros fan des comédies musicales, mais je pensais pas qu'il aurait un impact aussi profond.
Et surtout que c'est fou, parce qu'en vrai, c'est quand même un hommage global aux comédies musicales des années 50 et 60. S'il y a bien un truc que tu te dis que les jeunes générations vont pas comprendre, c'est les comédies musicales des années 50 et 60 avec des claquettes, avec du jazz. Enfin, tu vois, c'est le truc qui part à des années-lumière.
Ouais, mais Ryan Gosling.
Non, je pense que c'est autre chose. Moi, je pense que c'est autre chose. Je pense que c'est High School Musical.
Ouais,
je pense que High School Musical et Glee, par exemple, ont planté les graines de ce qu'allait être La La Land.
Mais surtout, on se rend compte que ce qu'il y a d'incroyable avec la comédie musicale, c'est qu'elle traverse les époques, elle traverse les décennies, et ça continue de fonctionner.
Mais d'ailleurs, ce côté comédie musicale peut être assez clivant. Je connais des potes qui aiment pas La La Land parce que c'est une comédie musicale et genre ça les touche pas pour ça.
Ouais, je te cache pas qu'il y avait des moments où je me souviens qu'à la fin du film, il y a une chanson qui dure 1000 ans. J'étais un peu en mode genre bon.
Mais je trouve quand même que c'est intelligemment fait, parce que c'est pas non plus Jacques Demy ou Christophe Honoré, là où t'allumes, et du début à la fin du film, les gens ils se parlent uniquement en chantant, tu vois. Y a pas peux passer le sel, passe le sel et puis c'est tout, non.
Non, c'est des vrais moments qui s'imprègnent dans l'histoire, ça qui est intéressant. Que
Mais la scène de fin aussi, grosse leçon de réalisation, quoi.
Ah ouais, fond, bien sûr. Incroyable. Un peu Gondry dans le style. Exact,
Alors, ce que j'ai toujours trouvé drôle avec les comédies musicales, c'est qu'un jour, quelqu'un s'est dit... Bah maintenant, dans les films, on va faire chanter les gens quand ils auront des trucs à raconter. Et ce genre, qui a surtout connu son heure de gloire dans les années 30, 40 et 50, continue de fonctionner aujourd'hui. La preuve avec des films comme Chicago, The Artist ou encore La La Land, on en parlait il y a quelques secondes, Aurélien.
Yes, et en fait, si on creuse un petit peu d'où ça vient quand même, c'est qui le mec qui s'est dit un jour, tiens, bah... Vas-y, chante. Non, je sais pas, il y a un film, chante. C'est mieux si tu chantes ce que tu racontes. Mais en fait, c'est carrément depuis que le cinéma existe, en fait. Parce que même les premiers créateurs des bobines, là, les Edison, les Frères Lumière et tout, dès qu'ils ont commencé à prendre de l'image, ils se sont dit, bah, en fait, faut qu'on mette du son, sinon ça n'aura pas de sens, tu vois. Donc, ils ont toujours essayé de faire de l'enregistrement d'image en même temps que de faire de l'enregistrement de son. Et finalement, ce qui est assez fou, c'est que très vite, bah, la musique est rentrée en compte. C'est vrai qu'il y a quand même très peu de films qui n'ont pas de musique, en fait, en fond. Et au départ, en fait, les premiers films muets, c'était juste accompagné de musique. Donc finalement, dans l'inconscient collectif, le cinéma, c'est musical, en fait. C'est-à-dire que tout le cinéma est musical. Et le premier film sonore qui sort en 1926, c'est Don Juan. Ça sort en 1926, et en fait, c'est un film où la bande sonore, c'est que des chansons. Donc déjà, en fait, le premier film de l'histoire du cinéma avec du son dans la bande, bah en fait, c'est un film où il n'y a que des chansons, donc c'est déjà une comédie musicale, c'est déjà un film musical, tu vois. Et ils enchaînent direct après avec un film qui va faire date, qui s'appelle Le Chanteur de Jazz, en 1927, et qui est pareil, en fait, qui va vraiment créer cet univers où finalement, pour les gens... À cette époque-là, le cinéma, c'est en gros une résurgence des spectacles qu'ils vont voir. Donc, c'est les opérettes, le musical, Broadway aux US, en France, les cafés-concerts. Et en fait, dans chaque pays, que ça soit en Inde, que ça soit dans le reste de l'Europe et tout, bah, ils avaient déjà tout ça qui était mis en place. Et le cinéma, il s'est greffé autour de ça, en fait. Et quand on pense à, par exemple, des films avec des chansons, bah, en fait, les premiers à vraiment le faire, tel quel, c'est les Français, mine de rien. Parce que dès 1929 et tout début 30, t'as Jean Gabin qui fait un film qui s'appelle Pépé le Woko avec notamment La Fréelle. Et en fait, au milieu du film, y a des chansons de Jean Gabin, en fait, et qui racontent quelque chose par rapport à l'histoire. Il joue, en fait, et il se raconte des trucs. Et ça a quelque chose à voir avec l'histoire. C'est pas juste, ça accompagne pas, quoi. Et en fait, vu que tous les premiers acteurs étaient plus ou moins issus du café-concert, bah, y en a plein qui sont devenus des acteurs très importants du cinéma, genre Fernandel, genre Gabin. En fait, à la base, c'est des chanteurs.
Parce que Gabin chante, il y a eu des albums.
Ben oui, complètement. Et en fait, c'est des gens qui vont devenir des visages du cinéma, mais à la base, c'est des visages qui sont connus de l'entertainment et du musical en France. Et aux États-Unis, bah, bien sûr, il y a Broadway. Donc très vite, dès le début, après Le Chanteur de Jazz, début 30, bah, en fait, ils vont trouver... La poule aux œufs d'or, qui est, on prend les gros succès de Broadway à l'époque où ça commence à cartonner, on prend les gens qui sont les plus forts là-bas et on leur fait faire un film, des fois calqué entièrement sur un succès de Broadway, sauf qu'on le retravaille comme si c'était un film et que c'est pas une pièce de théâtre, quoi.
Et pour revenir sur la France, finalement, c'était un peu une habitude parce que Serge Tchéri et Charles Aznavour
jouer à la comédie, ouais. Alors qu'ils étaient chanteurs de base.
Ouais, c'est ça qui est fou, c'est que là, on a un peu oublié maintenant, parce que maintenant, les étiquettes en France, c'est vraiment genre soit t'es dans la musique, soit t'es dans le cinéma. Recroiser les choses, c'est complètement différent. Aux US, ils ont toujours mélangé les genres, il y a ce côté justement très comédie musicale, où le rythme du cinéma, c'est le même rythme que la musique et tout ça. Mais en France, en fait, c'était exactement la même chose. La plupart, c'était des mecs qui soit faisaient des blagues, soit chantaient, en fait, devant un public. Et quand il y a eu à faire les premiers films, ils les ont pris. Et vraiment, le mec le plus connu par rapport à ça, c'est Fernandel, qui était une star à Paname dans les cafés-concerts et qui est devenu genre la première vraie star du cinéma français, quoi, avec Gabin, etc. Donc après, t'en as parlé, hein, y a toute la grande époque des années 30 où genre les comédies musicales deviennent filmées, deviennent genre excentriques avec des chorégraphies incroyables, et en fait ils font tout ce qu'ils n'arrivaient pas à faire avec du montage en plus, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire en direct dans des comédies musicales à Broadway. Donc ça leur permet de faire des effets spéciaux. On se rappelle par exemple de Fred Astaire qui se met à marcher sur les murs, à marcher au plafond. Ça, c'est vraiment des choses où ils se disent on peut vraiment aller plus loin avec le côté filmé. Donc on continue à être dans ce truc de performance et de chanson et tout, mais avec l'objet cinéma, quoi. Et après, il y a un autre truc aussi qu'il faut pas oublier, qui à mon avis joue dans l'inconscient collectif, qui fait que les jeunes générations sont quand même vachement dans l'esprit comédie musicale, c'est Disney. Parce que Disney, dès leur premier film, les chansons font totalement partie du film. Genre Blanche-Neige, on connaît tous les chansons de Blanche-Neige. C'est incroyable comment en fait Disney, en faisant un mélange de divertissement pour les enfants, de comédie musicale et ça, je pense que c'est les morceaux qui mondialement sont les plus connus, tu vois.
Parce qu'en plus, pratiquement chaque film de Disney, la chanson principale est culte, quoi.
Ouais, et souvent même plusieurs, tu vois. Donc, je pense que ça a joué sur le fait que l'industrie musicale et l'industrie du cinéma sont toujours restées très liées, et qu'en gros, tu sais, c'était du win-win, quoi. En gros, si tu mettais un disque à l'intérieur de ton film pour que ça vende le disque, et en même temps, l'artiste, ça lui vend son film, et c'est vraiment des choses qui sont très, très, très reliées. Qui après, dans les années 80, 90, parce qu'on est parti sur d'autres styles de films, a un peu perdu. Mais finalement, le thème d'un film, c'est toujours quelque chose d'important. La musique est très, très, très reliée, en fait, à l'histoire du cinéma, quoi.
Question sauvage et petite tour de table rapide. La meilleure chanson Disney jamais produite.
Alors Guillaume. Attention, parce qu'après, j'ai un petit jeu.
Il y en a beaucoup, mais alors, il y a une qui me vient en tête directement. C'est Hakuna Matata.
Bon. Ok, Cyrus. Voilà.
Moi, j'étais sur le Roi Lion aussi, mais moi, je me demande si c'est pas la première.
L'histoire de la vie.
Ah, ouais.
Wow. Ce qu'il dit là. C'est Scatman. Ne
t'inquiète pas. Ton meilleur ami, Aladdin. Bien sûr, le génie incroyable.
Ouais, écoute, j'ai la même que toi.
Ah ouais,
plaisir.
Ah, c'est ça.
Oui, parce que tu disais attention tout à l'heure, rien, parce que j'ai l'impression que.
J'ai préparé un petit jeu. Voilà. Parce qu'en fait, bien sûr, on a tous, comme là, vous venez de le faire, des mélodies de films de Disney dans la tête. Je vous ai préparé un petit jeu qui va être un double jeu. C'est assez compliqué. En gros, je vais vous faire des pitchs de comédies musicales hyper connues de l'histoire du cinéma. Sauf que je vais les chanter avec des airs de musique de Disney.
Donc ce ne sera pas des Disney qu'on doit trouver.
Non, il faut trouver les deux.
D'accord, okay.
En gros, il faut trouver de quoi parle le film, ce que je raconte. C'est quoi le pitch du film, et en même temps, c'est quoi l'air de la chanson.
D'accord.
Okay, je suis hyper chaud. Faut trouver le dessin animé dont vient la chanson, ou faut trouver le titre de la chanson.
Il n'a manifestement pas compris.
Le dessin animé, ça suffit. Non, le dessin animé, ça suffit.
Moi, je t'ai donné 4 réponses. Après, s'il faut s'imiter à 2, pas de soucis.
Non,
attends, et est-ce que ça peut être 2 duos qui s'affrontent?
Non,
on va être affronté entre duos.
Ok. Putain, super, moi, ça n'a aucune plus-value, mon duo. c'est pas ouf en comédie musicale et en Disney.
Attention,
la pire idée.
De toute façon, je chante très mal, donc vous allez retrouver.
Cyrus, t'as fait une monumentale erreur parce que Guillaume est très chaud en blind test.
Ouais. On
a inventé le blind test.
On crie, c'est quoi la règle? On est des animaux ou on est des hommes distingués?
Non, on n'est pas des animaux.
Ah bon?
Non, on est. Premier désaccord dans notre duo.
Ok. Vous êtes prêts?
Juste au passage, c'était hyper intéressant tout ce que t'as raconté.
Ah ouais,
merci. Comme toujours.
Franchement,
c'est cool.
C'était chambé.
En Autriche, Maria est une jeune femme qui se prépare à devenir religieuse dans une abbaye bénédictine située à Salzbourg.
Ah, la mélodie du bonheur.
Robin des Bois,
il est là. Son couvent l'envoie en tant que gouvernante.
La mélodie du bonheur,
Star Act, tu l'as eu. Ouais, mais comment on fait si.
Attends, qu'est-ce qui s'est passé?
Attends. Là, il y a eu 3 réponses.
C'est quoi la
réponse? Non. En fait, il va falloir que vous me donniez à chaque fois un couple.
Robin des Bois, Sister Act.
En vrai, c'était Robin des Bois, la mélodie du bonheur.
Ok, dis-moi ça, Guillaume.
T'avais pas du tout précisé que tu chantais très mal. T'avais pas précisé ça.
Si, il l'a dit.
Je voudrais parler à mon
coéquipier.
Oui. On a qu'à dire que je trouve le film.
Ouais.
Et toi, tu te concentres sur la mélodie.
Non, nos problèmes.
D'accord.
Moi, je veux la mélodie, mon gars. C'est le plus.
Moi, je veux. Moi, je veux un couple de réponses.
Cyrus, on a qu'à dire que je me concentre sur les deux.
Ouais. Et moi, je te soutiens.
Ça roule.
Vous buzzez uniquement quand vous avez les deux réponses. Vous faites un kems. Sinon,
ah ouais, quand on a les deux, juste.
Bah ouais, parce que sinon, il y en a un qui va l'avoir.
En fait, si on se trompe, l'autre prend la main.
Exactement.
Okay,
ça devient hyper sérieux d'un coup. En même temps, il y a une bagnole à gagner, c'est ça?
Ouais, il y a au moins une voiture.
Ça marche.
Il y a une Volvo.
Il y a une Porsche. En plus, j'avais plein d'histoires après. Derrière, c'était marrant. Bon, c'est pas grave. Vous coupez trop tôt, c'est pas grave.
Ah, mais si tu peux. Je chante mal. Après les chansons.
Non, ouais. Je rigole.
Non, mais t'inquiète, c'est vrai, je chante mal.
Il l'a très mal pris.
Alors, attends. C'est Delphine et Solange, deux jumelles de 25 ans.
Parapluie de Cherbourg.
Siffle en travaillant.
Oui, Blanche-Neige. En même temps. Les parapluies de Cherbourg. On a le droit de faire ça.
Mais non,
c'est
ce qu'on
vient de faire. Bah, vous ont perdu la main.
Mais non, c'est ce qu'on vient de faire. Ils viennent de dire et moi j'ai enchaîné sur les parapluies de Cherbourg.
Ok.
Une équipe de
c'est qui?
Bah, on est les Tango et Cash du.
Blanche-Neige.
Mais attends, fallait pas dire le titre du dessin animé.
Oh, il a rien compris. C'est bon.
Bon, je propose que ce duo devienne un Uno et que Tom qui joue.
Yes.
C'est très compliqué ce jeu. Je précise, c'est des dessins animés, donc il n'y a pas uniquement que du Disney. Le prochain, c'est pas un Disney, mais vous connaissez tous.
Très bien.
Dans un bas quartier de New York, de bandes de jeunes s'affrontent les Sharks de Bernardo et les Jets de
Non, c'était bon.
Si, 12 travaux d'Astérix.
12 travaux d'Astérix.
Non, c'est Hercule, carrément.
Cléopâtre.
C'est Cléopâtre. Il n'y avait pas besoin d'aller sur la mission de je ne sais pas quoi.
Ouais, je l'ai pas.
Et moi j'avais
c'est
West Side Story.
Le Pudding à l'arsenic, et c'était bien sûr West Side Story.
Bravo.
Avec bien sûr un next et Jess Tony, c'est prend de Maria, c'est la sœur de Bernardo, et ça devient complicado.
C'était pris la tête un peu.
Ouais, ouais, les gars.
C'est pour ça qu'il voulait les lire en entier.
Ouais, pour l'instant. Exactement.
Bah ouais, quand même, les gars, j'ai bossé. Oui. Ça chante pas bien, mais ça rime.
Mais si, ça chante bien, arrête un peu.
Il l'a très mal pris.
C'est catastrophique.
Non, rigole,
il va nous en parler à la fin.
Ce matin, il se voyait comme le Pavarotti français, et tu viens de lui casser ça.
Il était devant la glace.
Non, 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 le Bernardo.
T'imagines la loose, mec. Alors, là j'en ai déjà fait 3. Les scores on compte pas, on a décidé que non.
Non, on compte pas, mais j'ai 2 points.
Ok, super.
Il y a 2-1
pour l'instant. Là ça va être plus compliqué.
Merci.
C'est Winslow Leach, un jeune compositeur inconnu. Il tente Phantom désespérément de faire connaître l'opéra qu'il
ce
a
rêve
composé.
Bleu, Phantom of the Paradise.
Hey, oui, yeah.
Oh, il est chaud.
Rêve bleu, ça.
Oui.
Bah,
si,
refais la mélodie.
Mais c'est
si.
Winslow Leach, un jeune compositeur inconnu.
Je suis pas sur un tapis volant là, mon gars.
Ah, bah gros. Ouais. On est
sur un tapis volé là. C'est pas la même.
Phantom of the Paradise d'ailleurs, qui est le film préféré de Tom.
C'est vrai. Ah, bah, c'était facile pour moi.
Quand j'ai dit Winslow Leach,
ouais, j'étais parti.
Ah, bah ça fait plaisir. Donc ça devient de plus en plus dur, mais c'est le dernier.
Ah, voilà.
Celui-là carrément je pense que j'ai essayé de le faire. Ouais, bon, même moi j'avais plus la mélodie à la fin d'une phrase, donc.
Ah oui, d'accord.
Yes.
Joji Deon est un artiste affairé, pris entre les auditions, les répétitions de son prochain ballet à Broadway. Mais aussi
je l'ai All That Jazz.
Ouais,
All That Jazz. Comment ça s'appelle
Avec Balou et Mowgli.
Pour être.
Mais si, j'avais trouvé ça. Elle trouve vraiment que je chante mal.
Et le film.
Attends. Il en faut peu pour être heureux. Non, mais attends. Non, les gars.
Je suis pas heureux.
Je pense qu'on a tous les deux du. On a gagné.
On a gagné tous les deux. Non, je crois qu'on a gagné.
Je suis pas sûr.
Je crois que si.
En fait, il y en avait 5, donc il y a forcément un gagnant. Ouais. En fait.
Bon, on a perdu.
Ouais. On a perdu, mais bon.
Yes.
On a une bagnole. Vous avez quand même trouvé.
Merci Aurélien pour ce jeu.
C'était super.
Ce jeu
ouais, c'était génial.
Cool.
Moi, je crois que je ne sentis pas, mais Aurélien.
Est-ce qu'il existe en kiosque? On peut l'acheter, ce jeu?
Très bon jeu. Est-ce que vous, c'est un genre qui vous plaît, les comédies musicales? On en parlait un tout petit peu tout à l'heure. Est-ce que vous consommez de la comédie musicale, Tom?
Moi, j'aime bien ça. On en a déjà parlé, du coup, ensemble dans le podcast qui va bientôt sortir, le nôtre. Et ouais, j'aime bien la comédie musicale. Écoute, j'ai un côté un peu, je sais pas, c'est un côté fleur bleue, vient de me dire ça, c'est très cliché, mais je trouve qu'une comédie musicale bien faite, t'as vraiment une mise en scène qui est hyper agréable, ça s'enchaîne bien, c'est une vraie masterclass de ciné, et je trouve que ça touche des cordes qui m'émeut et je rentre vachement dedans facilement. Après, voilà, ça passe ou ça casse, la chanson d'intro généralement est un bon test pour savoir si tu vas accrocher ou pas, mais moi je suis assez sensible et j'aime bien les histoires que ça raconte généralement.
Ok, Sirius.
Ouais, moi je dirais pas fleur bleue, je dirais naïf. En fait, je trouve qu'il faut une certaine naïveté en fait pour rentrer dans une comédie musicale. Et c'est pour ça que tout à l'heure on disait que ça touche pas forcément tout le monde. Il faut laisser faut mettre de côté ses barrières et faut se dire allez, vas-y, tant pis, j'accepte ce qu'on me donne. Moi, j'ai beaucoup regardé High School Musical.
Eh ben, c'est quoi jeune. J'allais dire ça aussi. Ouais. J'ai adoré, moi, High School Musical.
Ah, mec, alors que fixed bon, the status quo.
Avec Guillaume, on s'est regardé en mode OK.
Et apparemment, moi, right. Je chante mal. OK, super.
Non, mais attends.
White Cat.
Le 2, tu l'as regardé ou pas? Ça se passe
le 2, j'ai regardé, j'ai un peu moins aimé.
C'est moins bien, mais il y a un golf quand même, c'est cool.
Et le 3, t'as regardé?
Non, par contre, le 3, j'ai arrêté. Mais Camp Rock, je suis assez chaud.
Ah, je connais pas ça.
Ah, c'est avec les frères Jonas.
Et Demi Lovato, non?
Et Demi Lovato.
Yes.
Guillaume, est-ce que tu consommes High School Musical?
High School Musical, pas du tout. Les comédies musicales, un peu. J'ai vu les grands classiques. Ma préférée étant La Petite Boutique des Horreurs.
Ouais.
Vraiment trop cool.
Et la chanson de Steve Martin en tant que dentiste, incroyable.
Très, très bien. You'll be a dentist. You have a talent for causing things. Mais sinon, non, pas trop. Mais après, c'est marrant parce que, comme il disait, Fleur Bleue, etc., mais il n'y a pas de comédie musicale bien vénère.
Bah si, Rocky
Horror
Show.
Rocky Horror Show.
Et Pick of the Destiny.
Ouais, non, mais tu
sais. Non, mais ils font contredit en deux mondes.
Et Fantôme de Paradis.
Oui, mais c'est pas bien vénère. C'est pas vénère. C'est des belles histoires.
Fantôme de Paradis, le mec qui se fait écraser dans une presse à vinyle.
T'as compris, Guillaume?
Oui, bon. Bon bah ok, bah je suis né après.
Aurélien.
Bah moi j'aime bien en vrai, pas toutes les époques, j'ai mis du temps à des fois me mettre dans les trucs de Fred Astaire et tout ça. J'ai un peu de mal quand vraiment, comme je disais là, Demi ou Honoré, où vraiment tout est raconté en chanson, tu vois. Là je me dis vraiment que ça devient compliqué, que des fois c'est vite fait quoi. Mais en fait moi, vu que j'ai beaucoup consommé de Disney quand j'étais très petit, en fait, ça me dérange pas que d'un coup, tu sais, ça parte en sucette, d'un coup, pouf, il y a des trucs qui sortent de derrière. J'aime bien, tu vois, même, je pense à C'est la fête dans La Belle et la Bête. Franchement, ce truc,
c'est incroyable.
J'ai toujours des images de, je sais pas, de show, de trucs. Et au final, bah, quand ça revient dans un film, ça me dérange pas, quasi même. J'aime bien le côté hyper excentrique et un peu loufoque, surnaturel, de tout d'un coup, pouf, ça devient un spectacle. T'as des gens qui sortent de derrière et t'as des chorégraphies. Et ça me fait marrer.
Moi, j'ai un rapport assez compliqué à la comédie musicale parce que, enfin, au départ, c'était très compliqué parce que ma mère est une grande fan du film Les Parapluies de Cherbourg, son film préféré. Et durant toute mon enfance, et même plus tard, et même encore maintenant, elle a l'album et elle le met dans la voiture tout le temps.
Peut-être avez-vous besoin de repos.
En effet, Geneviève s'est beaucoup surmenée. Cet an dernier, elle est un peu palote.
Et elle écoute ça en boucle, en fait. Donc je connais tout par cœur, c'est vraiment revenu, donc j'avais un petit peu un rejet de la comédie musicale. Puis par la suite, j'ai découvert les films de Fred Astaire. Je trouvais ça assez incroyable, en l'occurrence un film qui s'appelle Top Hat, avec Ginger Rogers, qui est incroyablement beau. Dans ce film, il y a une scène que j'adore. En gros, Fred Astaire est amoureux d'une femme, qui n'est pas du tout amoureuse de lui. Et un jour, il se trouve qu'ils sont dans le même hôtel, lui est au-dessus, elle est en dessous. Et lui, il répète ses claquettes.
Ah oui.
Et du coup, elle n'arrive pas à dormir.
Elle ouvre cette scène.
Et elle prend son téléphone, elle appelle au-dessus et elle dit « C'est quoi ce boucan? J'arrive pas à dormir, etc. Donc arrêtez les claquettes. » Et lui, il va dans le couloir de l'hôtel, il va chercher un grand cendrier dans lequel il y a du sable, il dispose plein de sable dans sa chambre d'hôtel et il commence à faire des claquettes sur le sable pour endormir la femme qui est en bas.
C'est donc, toi du qui coup... m'as raconté cette scène, mec.
Ah ouais?
Ouais. Et...
Ah bah écoute,
il nous l'a pas raconté au dernier podcast.
Et du coup, il y a ce moment où en gros, les claquettes deviennent très douces, il y a ce bruit de sable et on voit la femme en bas qui s'endort en dessous. Et c'est magnifique cette scène. Vraiment, c'est une scène qui donne envie d'aimer la comédie musicale. Et puis après, plus tard, j'ai découvert un film qui est un peu un anti-comédie musicale, mais qui en est une pourtant, c'est Dancer in the Dark, qui pour moi est un chef-d'œuvre de Lars von Trier. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais c'est...
Ah, c'est ouf.
C'est un film vraiment poignant, extraordinaire, et ça change vraiment de tout ce qu'on a pu voir en termes de comédie musicale. Et justement, on parlait de comédie musicale violente. Ça, pour le coup, c'est vraiment une comédie musicale violente. Hard. et c'est magnifique. Un vrai chef.
Non, mais je veux dire, il n'y a pas par exemple Terminator 2 en comédie musicale, c'est ça que je veux dire. C'est, voilà,
c'est vrai.
Bref, vous êtes tous contre moi.
J'espère que ta chronique n'est pas là-dessus, mon gars. J'espère que ta chronique n'est pas là-dessus.
Non, c'est bon.
Attends, moi, j'ai juste une petite question.
Ouais, bien sûr.
Du coup, quand.
Le cendrier, il le trouve où exactement?
Non, mais j'avoue, ça fait beaucoup de sable, mine de rien. C'est un très gros cendrier.
C'était Cap Ferret, je crois.
Non, mais juste quand t'entends ces musiques donc que ta mère passe tout le temps dans la voiture. Ça te fait quoi, genre ça donne pas envie de chialer, genre?
Non, pas du tout.
Moi, quand j'entends des musiques de mon enfance comme ça, ça me donne envie de chialer parfois.
Alors non, mais c'est pas pareil. En fait, quand c'est fait de manière abrasive, ça devient très vite énervant. Mais par contre, moi, j'ai des souvenirs de musique. Toi, par exemple, on était parti à Andorre. Je sais pas si vous êtes déjà parti à Andorre. Il y a quelque chose de très mélancolique autour d'Andorre parce que pour ceux qui connaissent pas, c'est entre la France et l'Espagne. Et c'est perdu au milieu des montagnes et des forêts. Et d'un coup, il y a une grosse activité dans cette petite ville parce que là-bas, les trucs sont moins chers. Donc les gens y vont pour s'acheter des cartouches de cigarettes ou tout comme ça, etc. Et quand j'étais petit, on était passé par Andorre. Et je me souviens que ma mère avait passé en boucle un CD de titre de Bocelli. Et la chanson 2,
la phase 0.
Non, pas Conte Partiro, mais il y avait une deuxième chanson. Il y avait une deuxième chanson. Je vais mettre l'extrait.
Ma mère, elle l'avait aussi.
Et du coup, cette chanson, je sais pas, ça me rappelle ce moment-là et tu vois, ça me donne pas envie de pleurer, mais ça me procure quelque chose d'agréable. Donc je me dis que c'est la réponse à ta question.
D'accord, ok.
Pour toi, c'est quelle musique?
Scatman? Non, non. Moi, c'est la SketchUp, quoi. La SketchUp.
Bah oui, mais j'imagine bien.
En deux secondes, quoi.
J'imagine bien. Alors. Pour préparer ce podcast, j'ai revu des séquences du film et à chaque passage, quand je voyais Ryan Gosling, je me disais « Mais quel charme! Quel charisme !» Et le charisme, bah, c'est très dur à avoir. Du coup, on va jouer un petit jeu. Je vais vous poser des questions et on va voir lequel d'entre vous se rapproche le plus du charisme de Ryan Gosling.
Ouais.
Est-ce que vous êtes prêts?
Vas-y.
Oui. Allez.
J'aimerais que chacun d'entre vous réponde avec la plus grande des franchises. C'est important pour moi et pour pouvoir établir mon système de notation, d'accord?
Ah bah, je chante faux, quoi, c'est bon.
Il a très mal pris. Il s'agit donc du test gosselinien. Voilà. Alors, lorsque vous êtes dans un café et que vous appelez le serveur, est-ce qu'il vous voit directement ou est-ce qu'il vous faut lever la main 4-5 fois avant qu'il vous remarque? Guillaume.
Tu connais la réponse.
Réponse. Donc Guillaume, zéro.
Ouais, pour la première. C'est vraiment 4-5 fois et encore, je dis bon, bah, tu peux l'appeler parce qu'il me voit pas. Moi, c'est jamais moi qui. Bon. Il me voit jamais, moi.
Guillaume, zéro. Cyrus.
Alors, je vais être un peu relou, mais en même temps, c'est le côté violon que tu m'as donné au début. Elle est compliquée, cette question, parce qu'il y a un gros biais cognitif. C'est qu'on ne se souvient que des fois où on l'a dû l'appeler 4-5 fois.
C'est vrai.
Les fois où il vient direct,
nous,
on ne s'en souvient pas.
Franchement, nous, c'est tout le temps.
Je te le dis. Donc moi je pense que je suis un peu dans la moyenne, j'ai pas l'impression que il vient pas tout le temps à chaque fois, mais j'ai pas tout le temps à harceler, quoi.
Ok, ça fait
zéro.
Un point.
Non, zéro. Non. Il vient pas tout le temps à chaque fois.
Je t'explique. C'est zéro pour toi parce que ça arrive jamais. Cyrus, c'est quelques fois, donc c'est un. Mais par contre, si ça t'arrive tout le temps, dès que tu lèves la main, le serveur te voit, c'est deux points. On se rapproche de Ryan Gosling.
Je pourrais pas dire que c'est tout le temps, tu vois.
Bon bah c'est un. C'est un, désolé Guillaume, c'est zéro. Mais moi aussi c'est zéro.
Mais moi je vais mentir pour la prochaine épisode.
Non, mais t'as envie d'être Ryan Gosling, toi.
Oh, c'est un peu cognitif. Ouais, c'est pareil. Prochaine question, je dis ça.
Quand je suis un violon.
Tom.
Moi je m'excuse de le déranger dans son travail. Non, pas du tout. La nature m'a doté de très grands bras, ce qui m'aide du coup à être vu de très loin.
Commence pas. Et moi aussi j'ai des longs bras, ça m'empêche pas. Il me calcule pas.
Je suis généralement vu et non, ça va à peu près.
Donc toi, tu dois être un
point. Moi, j'ai deux points, très bien.
C'est Ryan Gosling. Vas-y, toi.
Oh, JB, t'es grand, il te voit pas, genre. Vraiment.
Non, il me voit pas, franchement, il me calcule pas. J'étais battu à mon bistrot avec les peignets de ce midi, là. J'ai demandé du parmesan, on m'a pas vu.
Ouais, mais attends, c'est encore pire, tu sais, quand tu demandes du parmesan, il te voit pas, du coup, t'es obligé de manger.
Mais oui, c'est
du coup,
ça.
Tu manges sans parmesan.
Et j'avais pas de sel non plus. Donc j'ai commencé mes pâtes sans sel ni parmesan. Ah, c'était triste.
C'est d'où le 7,5.
Mais 7,5 pourtant. C'était 5 sans le sel et parmesan, c'est devenu 7,5, tu vois.
Ah, d'accord, ok, ça aurait pu être. Je crois que c'était encore.
Bah, tu vois. Aurélien.
Je pense que je suis dans une moyenne aussi.
Ouais, toi, t'as un point là-dessus. Ouais,
ouais, ça m'arrive forcément qu'il y ait personne qui me voit. En fait, moi, c'est plus ma voix.
Guillaume, il regrette de ouf.
Mais oui, de ouf.
Non, en fait, moi, souvent, bon, gesticule, on me voit, ça va, tu vois, je fais des mouvements, je fais du bruit. Mais j'ai un problème de voix, moi. Genre j'ai une voix médium.
Bah, t'inquiète pas, c'est une des prochaines questions.
Il me semble que t'as la voix de Nagui, d'après nos, ouais, ouais, nos gens ça, sur ouais. Twitter.
Le sondage actuellement.
Non, mais il y a un petit truc rauque. Effectivement, il y a un petit truc rauque. Il y a un petit. Tu vois, il y a un petit grincement.
C'est ça qui parle du
nez. Mais franchement, mec, ça me donne trop envie d'inviter Nagui à ce podcast pour avoir un double Nagui. Ça, ça serait fou.
Ce serait lourd.
Deuxième question. Quand le coiffeur vous montre votre nuque à l'aide d'un miroir et que votre coupe de cheveux est dégueulasse, est-ce que vous lui dites que ça a chié ou est-ce que vous répondez « Oui, oui, très bien », avec un léger ton de victime? Guillaume.
Tu connais la réponse.
C'est donc un deuxième zéro.
Ah ouais. Moi, je suis toujours content, moi.
Ok, Cyrus.
Non, moi, je lui dis.
Ah, tu lui dis, toi?
Ah ouais, je lui dis. Et des fois, il est obligé de recommencer. De,
putain,
il,
deux
il
points pour toi.
Il remonte en haut, il revient sur les côtés.
Bah, énorme charisme.
Quoi, il te remet les coupé. Moi, je dis le même. Non, mais... Oui, oui, très bien, que quand il me demande la température. Et pareil. Ah ouais, okay. Ça me brûle les oreilles, je dis ouais, très bien.
Donc zéro, alors.
Yes.
Mais pourquoi on fait ça?
J'avoue, je comprends pas pourquoi vous faites ça.
Aurélien.
Moi, je suis en train de réfléchir et je pense que j'ai jamais dit de ma vie à un coiffeur que derrière c'était pas bien.
Donc zéro.
Après, je vais chez des bons coiffeurs, donc c'est toujours bien. Mais c'est vrai que ça m'est jamais arrivé de dire pas terrible quand même.
Pour l'instant, celui qui a le plus de charisme, tel Ryan Gosling, c'est Cyrus. Je dois le dire, tu prends l'avantage.
Mais est-ce que ça veut dire avoir du charisme ou ça veut dire être chiant?
Il a du charisme parce qu'il impose.
Oui, c'est vrai, ça. C'est juste être chiant.
Les serveurs, les coiffeurs, tout le monde le déteste, mais par contre, il a du charisme.
Bah écoute, c'est comme ça que
je suis content que tous mes choix de vie m'aient amené à ce moment-là.
Ok, vous êtes dans le métro. Un mec.
Attends, et toi, t'as pas dit par contre?
Pour la nuit. Pour l'instant, je suis comme Guillaume, j'ai zéro.
Ah ok,
t'inquiète. Moi, je suis honnête.
T'as déjà eu des nuques à chier?
Oui, mais la choix, je dis. Oui, très bien, oui. Alors qu'on voit mon début de calvitie en haut et tout, je suis là, j'ai un moquet. Alors, vous êtes dans le métro. Un mec tente de racketter un autre type. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous interposez avec...
C'est là où je perds mes points.
Attends.
Vous l'aidez?
Vous vous interposez avec une prestance sublime? Ou alors vous faites comme si vous n'avez rien entendu en rangeant votre portable dans votre poche au cas où vous seriez le suivant? Guillaume.
Non, là, je dois quand même...
Ouais, commence pas.
Non.
Sois honnête.
Je vais pas me taper... Je vais quand même faire genre tout va bien.
Tu vois l'ambiance, t'es sûr de toi?
Ça va?
Tout va bien.
T'as ouais. Besoin d'aide?
Ouais. Bon, pour moi c'est un 1.
Un petit 1. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est un petit 1. Cyrus.
Non, mais moi ça dépend effectivement de. Il y a tout un contexte à mettre en place.
Ouais, bon, zéro quoi.
En fait, c'est toi qui te fais arrêter.
C'est à toi, Tom.
Ok, c'est toi la victime dans l'histoire, t'es bien zéro. Tom.
On est une équipe avec Cyrus, on partage les points.
Zéro aussi également.
Tous les jeux.
Aurélien.
Ouais, je pense que je suis comme Guillaume. J'y vais en mode genre, tu sais, un peu le daron.
Oui,
il y a un problème ici, tu vois. Ça...
Bon, un.
Ouais.
Parce que deux, c'est le mec qui. Bah, je vais te raconter une anecdote que tu connais et que je vais vous raconter. Vous allez me dire ce que vous en pensez de cette anecdote. Un jour, je suis dans le métro et je vois deux mecs qui embrouillent une meuf. Et là, je me dis, bon, bah, là, par contre, il faut vraiment faire un truc. Parce que
c'est pas pareil déjà.
C'est pas pareil, c'est une meuf en plus. Ouais. Donc là, je me dis, il faut faire un truc. Et le truc, c'est qu'il y a 2-3 personnes en plus devant moi. Donc théoriquement, c'est à eux de faire un truc en premier. Et après, je vois ce que je fais moi. Mais ces gens-là ne font rien. Deux mecs, genre deux grosses caras et tout, en mode, si t'y vas, tu sais que tu peux te taper, techniquement. Tu vois. Et donc, je me décide à y aller. Et je vois que le mec est de plus en plus offensif et il lève la main limite sur la meuf. Tu vois. Donc là, je m'avance. Et je pousse le mec en mettant ma main sur son torse, je le pousse vers l'extérieur et je lui dis maintenant ça suffit, stop.
Avec cette voix?
Non.
ça suffit, hein? Oh, alors?
Non, la voix c'est à peu près. Bon, allez, ça suffit là. Tu vois.
S'il vous plaît. Ouais, bon, alors, t'es là.
Et au moment où je fais ça, où je le touche et je le pousse.
Les portes se referment.
Non, mais je me dis à ce moment-là, je sais que tu vois, ça va partir en droite et qu'il y aura un début de baston, c'est obligé à 100%, tu vois. Et là, le mec ne dit rien, donc je prends confiance et je le repousse une deuxième fois en étant un peu plus sévère, en lui disant « Bon, stop !» tu vois. Et là, les mecs sortent du métro et ils commencent à insulter la nana de loin, etc., machin et tout. À ce moment-là, je suis le héros. Je suis le héros à ce moment-là, comme rarement je l'ai été dans ma vie. Et là, je m'assois sur le strapontin, la meuf un peu sonnée et tout, mais s'assoit sur le strapontin. Et au bout de quelques minutes, quand même, je me dis « Bon, bah, elle va m'en remercier. » Parce que j'attends pas de laurier à ce moment-là, mais je me dis « Bon, elle va m'en remercier, tu vois. » Et bah, elle s'en battait les couilles. Elle m'a même pas calculé, elle a rien dit. J'étais un peu amer à la fin. Mais ouais, j'étais le héros. J'étais le héros de la journée.
Ryan Gosling, il fait ça gratos. Tu vois. C'est vrai. Les couilles de remerciements, tu vois.
Et bah, du coup, un point pour moi. Point. J'aurais dû pas attendre de merci, j'aurais eu 2 points. Mais non, oui, bah, tu vois, je l'ai fait, moi, ouais, 1 point pour
et
moi.
Et juste, ils ont rien dit, tu les as poussés. Et
non, ils ont rien dit.
Non, mais attends, après, ils avaient 12 ans. Ça, il a pas dit l'âge des gars, tu vois.
Alors, oui, vous reprenez des points un petit peu. Avant-dernière question. Vous êtes au restaurant Et le plat est vraiment pas ouf.
Ah, c'est ce que j'allais dire. Attends, juste que t'avais posé cette question.
Le plat est vraiment pas ouf. Les pâtes sont un peu froides, l'ensemble est fade. Lorsque le serveur s'approche de vous au moment de régler la note, il vous pose la question fatidique, à savoir, tout s'est bien passé ? Est-ce que vous lui faites part de votre mauvaise expérience ou est-ce que vous répondez, c'était parfait, tel un somptueux faux cul, tout simplement. Guillaume.
Figure-toi que la dernière fois, ce qui m'est arrivé, j'ai mangé des falafels. Et dans mon falafel, il y avait un gravillon, mon gars.
Oh non.
Eh, j'ai quand même renvoyé en cuisine. J'ai
dit, t'as fait ça, toi.
Eh, non, par contre, il y a un gravillon. C'est pas bien. Non, mais gravillon, j'aurais pu mourir.
Non, mais de manière générale. De manière générale.
De manière générale, je fais yes. Non, c'est parfait.
Bon, bah, c'est zéro. Zéro et demi pour avoir.
Un et demi.
Non, 0,5 pour avoir renvoyé le gravillon.
Juste le gravillon, j'ai juste renvoyé le gravillon. Gardez le plat.
Il y a une tronçonneuse là.
Cyrus.
Moi, je suis assez. Comment dire, tout me convient hein, en termes de nourriture. C'est assez rare que je me dise ah, bah, vraiment, ça, il faudrait le renvoyer en cuisine, etc. Généralement, c'est les gens avec qui je suis qui le font à ma place, quoi.
Ok.
Tu peux me mettre un zéro. Ouais, tu peux mettre un bon zéro.
Zéro, très bien. Tom.
Moi, je m'arrache un poil que je mets dans mon assiette pour dire il y a un poil dans mon assiette, reprenez-le.
Mais ça, c'est ton enculé, par contre.
Ça, pour le coup, je le dis. Autant les mecs qui sont raquettés, c'est pas mon délire. Mais mes pâtes froides, jamais.
Ah, jamais. Donc, c'est deux pour toi. On est clairement sur un deux. On est clairement sur un deux.
J'avoue, j'aime bien le fight au reste.
Gros charisme au niveau de la bouffe. Toi, Aurélien ?
Ben, moi, c'est toujours le même problème. C'est que je sais pas si c'est du charisme ou si c'est juste, bah, en fait, je m'en fous. Donc, sur le coup, je fais, oh, c'est relou. Et après, quand ça arrive à la fin du repas, je me dis, en fait, ça va me prendre du temps. Je vais en chier, je m'embrouiller et tout. Et je me dis, bon, vas-y.
Donc, zéro. Hein.
Voilà.
moi, zéro, je suis comme Guillaume aussi. Ouais. Sauf s'il y a des pierres.
Mais il y a un truc, il y a vraiment, ok, tu renvoies ton plat parce que c'était catastrophique ou quoi, ou tu dis que c'était mauvais. Il y a des gens qui renvoient, genre, la viande, j'avais demandé saignant, c'est bleu.
Ouais, donc,
en fait, attends.
Tu sais ce qui m'est arrivé, moi, j'ai commandé un truc, c'est autre chose qui arrive, et je fais, bon.
Ouais, mais moi aussi, j'ai déjà fait ça, je le bon fichu là, ouais, je m'en fais les couilles, j'aurais pris ça peut-être.
Alors, c'était ça, je crois. Alors, c'était pour une boisson. Genre, je dis, ouais, je voudrais un iced tea pêche. Elle fait, ok, pas de problème. Elle ramène un oasis. Et là, je regarde, je fais, bon.
Ouais, moi, c'est
pareil. Genre, je dis, ouais, je veux un Kinder Bueno. Elle ramène des M&M's. Ouais.
Alors, quelqu'un, peu importe la situation, vous fait une remarque vraiment désagréable et injuste, alors que vous ne vous y attendiez vraiment pas. Vous êtes du genre à répondre un truc instantanément cool qui lui cloue le bec, ou alors vous êtes du genre à ne pas savoir quoi répondre, et quelques heures plus tard, vous dire « Ah, mais c'est ça que j'aurais dû répondre, putain !» Guillaume.
Ouais, pas facile. Moi, je suis du genre à vanner quand même. Je suis genre à revanner dans l'autre sens. Donc,
un.
Mais moi, un deux, mais au seul deux, s'il te plaît.
Bon, allez,
moi,
deux,
sur la vanne.
Allez, deux.
Allez. Ah, voilà.
Allez, c'est parti, deux. Cyrus.
Alors moi avant c'était comme Guillaume, c'était de la je vannais en retour et maintenant c'est je pense qu'avec l'âge peut-être je sais pas mais je dis, je le calme.
Ok donc on est sur un deux alors.
Non mais
c'est
un vrai deux ça.
On est sur un vrai deux.
Mais c'est que si un truc me plaît pas je dis bah il y a un problème tu vois.
Wow, bah toi là tu m'as imposé du charisme en me regardant en me disant ça.
Ah ouais, c'est vrai.
Je vois pas, mais il a fait les gros yeux.
Tom,
non, petite vanne sympa. J'irai pas jusqu'à deux, je vais être honnête, mais je rétorque un petit truc quoi. Genre t'as vu tes chaussures, un truc comme ça un peu. Ouais, ça rigole pas. Ouais.
Aurélien.
Bah moi ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 20 minutes. En fait je me suis fait bowling parce que je chantais mal.
Il l'a très mal pris.
Et non je rigole. Je suis du genre à vanner. Ouais.
Ce serait ton premier deux alors.
Non je suis du genre à dire ouais même si y a un mec qui commence à faire une blague bien lourde, je suis du genre à casser l'ambiance. C'est genre à faire.
Okay.
Pareil là, genre il y a un problème. Il y a un problème, il est très important. Ouais. Tout le monde rigole, il y a un problème en fait. Ouais. Enfin, c'est quoi, t'as un souci avec mon front enfin...
tu te sens mieux là du coup, t'as avané mon front, c'est cool. Ouais. On s'est marré, c'est génial.
Ouïe, aïe, aïe.
Tu vois
ouais. Sale ambiance,
super soirée.
Le froid.
Quand vous jouez
au
foot.
Et toi
bah, moi franchement, zéro, je crois.
Toi tu dis rien, toi.
Non, mais parce que parfois il y a des gens qui
avec
se permettent.
Avec ta petite chemise de merde là.
Non, mais. Le mec tu vois, je sais pas quoi dire. Mais par contre, dans deux heures, je t'enverrai un texto.
Il va m'appeler, il va dire. Ah, j'ai rien à dire.
Non, mais parfois, il y a des gens qui se permettent de dire des choses et je suis tellement interloqué que je suis bluffé sur l'instant. Et je me dis, bah, comment il peut se permettre de dire ça alors que j'étais très gentil.
Ouais.
Tu vois et du coup, deux heures après, je me dis, bon, bah, quel con. C'est vraiment le seul truc que je voyais. Alors. Question très intéressante.
Moi j'ai une petite question avant. Est-ce que le meilleur test de charisme, c'est pas genre qu'on parle tous en même temps et que le seul qui reste à la fin continue de parler, c'est lui qui gagne le contest.
Bah, tu vois, la dernière parle un peu de ça. Quand vous jouez au foot ou au basket, peu importe, et que vous avez le choix entre rejoindre l'équipe des torse nus ou celle qui porte des maillots. Vous choisissez laquelle? Guillaume.
Alors déjà, je vais vous expliquer que tout mon collège, j'étais choisi en dernier. Et quand on me choisissait, on disait « Oh non, putain !» Quand on prenait dans l'équipe, on était « Oh, pas lui bon, !» Parce que non pas que j'étais... voilà, parce qu'en fait, je m'en battais les couilles. Tu sais, je tapais le ballon, je marquais contre mon corps, je disais « Oh, on s'en branle !» et tout, tu vois. Genre, c'était les gens, ils prenaient ça au sérieux, tu vois.
Là, ce que tu m'as dit, c'est que tu veux un double zéro pour avoir été nul en sport et pour ne pas rejoindre l'équipe des torse nus.
Basket et foot, j'y joue pas, je suis une quiche, mais équipe torse nu, pourquoi pas. Mais il y a 15 ans, quoi.
Ouais, un point, alors. Un point. Cyrus. Ouais.
Non, moi, je vais te dire équipe maillot, et parce que je trouve que c'est beaucoup plus classe de jouer avec un maillot. J'ai pas besoin de montrer mon corps.
Zéro.
Pour avoir l'attention.
Zéro, Tom.
Équipe torse nu, double raison à ça. Oh, parce que déjà, mieux que l'équipe
chasuble. Magnifique corps.
Mieux que l'équipe chasuble, qui était quand même la pire équipe ever. Et surtout, au basket, terrible d'être dans l'équipe maillot et d'avoir les mecs torse nu qui défendent sur toi et te sautent dessus plein transpirant. Donc, fallait mieux shotgun cette équipe-là.
Il y a une blague qui est très drôle comme ça dans Polly et moi avec Ben Stiller et Jennifer Aniston. En gros, il fait du basket Ben Stiller et il a justement en défense avec un mec. Il se frotte à son dessous de bras dégueulasse.
Ça, c'est terrible.
Ouais. 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 Je vous conseille de regarder cette scène sur YouTube.
C'est pas un truc au ralenti.
Et aussi, je suis très bien gaulé aussi. Enfin,
oui, non, mais ça, je n'en doute pas. Deux points. Aurélien.
Non, moi, j'ai longtemps joué au basket, mais j'étais archi nul. Et c'était équipe t-shirt, chasuble, manche longue.
Zéro.
Doudou.
Et enfin, la dernière.
Toi, t'es comment sur le torse nu?
Moi, zéro, encore une fois. Moi, j'ai très peu de charisme.
Après, je vais vous dire un truc. Si l'équipe torse nu, c'est nous cinq, on se met torse nu. Il n'y a pas de complexe particulier.
Moi, je verrais pas Ryan Gosling se mettre torse nu, en vrai.
Oh, si.
Tu rigoles?
Il l'a jamais vu torse nu?
Oui, il est stupide love, là.
Exactement.
Stupide love devant la bouche avant les matchs.
Emma Stone, d'ailleurs. Elle fait genre, ah, d'ailleurs, c'est à ton tour de t'enlever ton truc. Il fait ça.
Il est magnifique.
Et elle fait genre, wow.
Ok, la dernière pour savoir qui est le plus charismatique.
J'ai l'impression que t'as été photoshopé.
Oui, bien sûr. Lorsque vous êtes au milieu d'une discussion avec plusieurs amis et que vous voulez placer une phrase, tout le monde s'arrête et écoute, ou alors tout le monde continue à parler comme si vous n'étiez qu'une sombre merde inexistante.
Non, moi, en général, c'est bon. On m'écoute en général.
Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ouais. Deux points.
Ah bah voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de blague, c'est tout. Hein.
Moi, pour être très honnête, ça dépend des potes et de la soirée. C'est-à-dire qu'il y a des fois où genre, vraiment, je suis très en forme, donc je parle beaucoup toute la soirée. Et donc, bah, forcément, mon ratio, truc intéressant, truc que je dis, est pas ouf. Et donc, on m'écoute moins. Et des fois où, genre, vraiment, tout le monde s'arrête.
Voilà. Très bien. Donc, un point.
Vas-y.
Tom.
Ouais, moi, je pense aussi, c'est à peu près. Enfin, je sais pas, Cyrus, t'en penses quoi? Toi,
non,
je
toi,
pense
t'es...
ça va. On
toi, tu te mets de tout le temps, quoi, en gros.
Non, 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 mais normalement. Non, non, classique, quoi.
Dans, dans nos cercles de potes, et à chaque fois que je t'ai vu entouré de personnes, toi, on t'écoute.
Ah, ouais, stylé.
Bon, allez, deux. Allez, deux. Et,
on peut
deux.
Juste faire le jeu de mots boubacarisme?
Ouais,
non, ce n'était pas nickel.
Aurélien.
Alors, moi, ça dépend si on parle de maintenant. Ou sur l'ensemble de ma carrière de soirée.
Tout le temps.
Parce qu'en vrai, avant, ouais, c'était moi qui racontais les meilleures histoires et tout, et j'ai vu à un moment vraiment le déclin.
Bon bah, alors,
je suis arrivé en
chute,
soirée.
Au fait d'avoir fait 40 ans, peut-être.
Peut-être. Ou cette voix de merde là. C'est
dans la soirée karaoké, non, du coup.
Je sais pas, ça a complètement foiré. Et depuis maintenant, je commence à raconter une histoire et je la finis jamais. C'est alors, catastrophique.
Il est temps de savoir qui est le plus gosselinien d'entre nous. Non, mais ce ne sera pas moi le plus gosselin.
Non, mais ça, par rapport à cette question.
Non, ça dépend. Parfois, oui, effectivement, tu es obligé de parler deux, trois fois. Et parfois, en fait, c'est une histoire de timing. Ouais, faut attendre ça. Qu'il y ait un petit silence. Ouais. Et là, bam, là, tu places ta phrase comme ça. Et puis, tu vois. Par contre, si là, on ne t'écoute pas à ce moment-là, c'est chiant.
Parce que moi, je t'ai vu à des soirées, notamment, j'en ai une en tête, où tu arrivais à monopoliser l'attention de vingtaines, trentaines de personnes. Non, mais vraiment, tu t'en souviens, Tom?
T'étais
là?
Attends. Est-ce qu'on aime vraiment ces mecs qui débarquent dans la soirée et qui monopolisent l'attention?
Mais non, on voulait l'écouter. Genre, il y avait 30 personnes autour
n'est
de lui.
N'est pas la haine, Guillaume.
Il était là, il était chaud, c'était intéressant.
Moi, je pense que tu prends 12 points sur celle-là et tu nous coiffes tous.
Allez, je me mets 12, effectivement, sur ce point.
C'était plus qu'une contre-soirée, mec. C'était plus qu'une contre-soirée. C'était incroyable.
Merci, Cyrus. Continue un peu encore, Cyrus, vas-y.
Non, c'était ouf, c'était ouf. Moi, je t'ai redécouvert à ce moment-là.
J'arrive donc premier au classement Gosling.
Mérité.
mais pour vous, Guillaume, tu as 6,5.
Ok.
Ah, pas mal.
6,5 points.
C'est pas mal, ouais.
Cyrus, tu as 6 points. 0, tu vois, c'est le 0,5 qui te permet d'être un peu plus charismatique, Guillaume.
Plus charismatique que Cyrus. Qu'est-ce que
c'est le gravillon, ça.
Ça se voit.
C'est terrible, mais je suis pas surpris, quoi.
Alors, Tom, tu as... Ouh là là, il y a du point, là. Attends. 2, 4, 6, 8, 9 points.
Oh là là, et tout ça sans aider les mecs qui se font agresser dans le métro. C'est quand même stylé, quoi. J'ai vraiment tout gagné. Wow.
9 points pour Guillaume et
non,
Aurélien.
Pas pour Guillaume.
Pour Guillaume, pour Tom, pardon. Tu vois, tout de suite, t'as pas de charisme parce que t'as précisé. Si t'avais du charisme, t'aurais laissé passer l'arnaque. Ouais. T'aurais laissé passer l'arnaque.
Non, surtout pas pour moi.
Et Aurélien, 5 points, Aurélien.
Oh, ça va.
Ah ouais, mais tu vois,
bah, tu perds en fait. Ouais.
Ça va. Mais... J'étais honnête. Quoi.
Ça va, ouais, je pense qu'on peut applaudir Tom qui a énormément de charisme autour de cette table.
Et de l'acheter, mais finalement, là, non, mais
t'es
Ryan Gosling.
T'es Ryan Gosling,
effectivement. Bravo. Alors, dans les comédies musicales, on trouve souvent des actrices et des acteurs qui se mettent à chanter alors qu'à la base, c'est pas forcément leur domaine de prédilection. Et l'inverse existe également, puisqu'il arrive souvent à des chanteurs et chanteuses de se mettre à la comédie, en témoigne la présence de John Legend dans La La Land. Mais il n'y a pas que lui, Guillaume, loin de là.
Effectivement, ils sont nombreux à être passés des studios d'enregistrement au studio de cinéma Honneur aux Dames, avec deux des trois plus grandes divas modernes, j'ai nommé Whitney Houston et Mariah Carey, évidemment. On ne va pas revenir sur Bodyguard, la BO du film la plus vendue de tous les temps. Et le rôle emblématique pour Whitney Houston, elle fera 5 autres films après, beaucoup plus dispensables, comme La femme du pasteur, Où sont les hommes, La légende de Cendrillon ou encore Sparkle. Dispensable, c'est un peu ce qu'on pourrait aussi dire du film Glitter, premier film de Mariah Carey qui est un énorme flop critique à sa sortie en 2001. Et pour la petite histoire, la BO du film, qui est en fait un album de Mariah Carey, se fait aussi défoncer à sa sortie, mais redevient 10 ans plus tard un disque aimé du public jusqu'à redevenir numéro 1 des ventes dans plusieurs pays en 2018 à cause d'un hashtag lancé sur Twitter par des fans. Justice for Glitter. On peut tout de même saluer une autre performance de Mariah Carey dans un film, à savoir Precious, sorti en 2009, où elle joue une assistante sociale aux côtés d'un autre chanteur très connu qui joue un infirmier. Est-ce que vous avez vu ce film ? Precious ? Tu vois pas ce film ?
Non.
Il s'agissait de Lenny Kravitz qui joue l'infirmier dans le film.
Ah ouais ?
Au même titre que Whitney Houston, il y a deux chanteuses qui ont endossé le premier rôle marquant pour leur carrière et pour le cinéma, à savoir Barbara Streisand et Madonna, évidemment. Mmh. La première qui a eu une grosse carrière cinématographique mais qui réalise le film musical Yentl en 1983 dans lequel elle joue le rôle principal, film qui remporte un énorme succès critique et public à sa sortie, notamment grâce à la qualité de sa musique composée par Michel Legrand qui remportera l'Oscar de la meilleure musique de film. Ah, pour Madonna c'est pareil, grosse carrière au cinéma elle aussi. Alors il y a Who's That Girl, Dick Tracy, Girl 6 de Spike Lee et plein d'autres, mais c'est en 96 qu'elle endosse un grand premier rôle dans le film musical Evita d'Alan Parker, l'histoire de la jeune Eva Duarte et de sa trajectoire vers le succès jusqu'à sa chute dans le Buenos Aires des années 50. Film qui gagne l'Oscar de la meilleure chanson originale et qui permet à Madonna de rentrer une nouvelle fois dans le Guinness Book des records. Mais savez-vous pour quelle raison ? Et ouais, parce qu'à la base elle était dans le Guinness Book des records parce que c'était la meuf qui avait vendu le plus de disques dans le monde.
Ah ouais.
Et elle y est rentrée une deuxième fois grâce à ce film. Mais pourquoi ?
Est-ce que c'est pas le CD de titre le plus acheté pour la chanson originale ?
Non, c'est pas en rapport avec la musique.
Ok.
C'est un lien avec son personnage, son costume peut-être,
oh,
son apparence.
What oh, 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 oh,
bah, attends, il est au courant lui, dis donc.
Bah il a du charisme.
Bah, qu'est-ce qui se passe ?
Excusez-moi. Vous avez beaucoup de charisme.
C'est incroyable. Effectivement, elle bat le record de costumes différents portés dans un film par une actrice. 85 tenues, 39 chapeaux, 45 paires de chaussures et 56 paires de boucles d'oreilles. Record précédemment tenu par Elizabeth Taylor pour son rôle dans Cléopâtre, qui dure quand même 2 heures de plus qu'Evita. Dans les autres chanteuses ayant crevé l'écran, on peut aussi citer Cher, Oscar du meilleur second rôle dans Moonstruck, Gwen Stefani dans Aviator.
Ah ouais, c'est vrai.
Et ouais. Beyoncé dans Dreamgirls.
Ouais, c'est cool ça.
Je ne l'ai pas vu. Tu l'as vu ?
C'est bien, ouais.
C'est bien,
c'est
un bon film.
C'est cool.
Très bien, on vous le conseille. Björk, évidemment, comme tu le disais dans Dancer in the Dark. Courtney Love dans Sid and Nancy et Larry Flint.
Ah ouais,
Rihanna dans Valerian.
Ouais, ça c'est pas ouf.
Ah mais les gars, ouais, mais bon.
Et dans Battleship aussi. Oui. Catastrophique.
Tina Turner dans Mad Max.
Ouais. Et dans Last Action Hero aussi. Elle joue la mère de la ville.
Last Action Hero, ouais, exact. Classe. Et Jennifer Lopez dans Out of Sight. Bon, je l'ai pas vu, mais je l'ai mis quand même.
Ah, Jennifer Lopez, grosse carrière.
Plusieurs films.
Out of Sight, trop bien. Anaconda, moi, je kiffe. Hein. Et okay.
Il y a le film aussi où elle joue une dame de ménage dans un hôtel, je crois, non ? Une comédie romantique.
Avec Matthew McConaughey.
Une sorte de faux Pretty Woman, quoi.
Ouais, c'est ça. De faux.
Ouais. Toujours un peu raté.
Si les producteurs, ils seraient comme ça, on voudrait faire un faux Pretty Woman.
Et donc, les chanteurs ne sont évidemment pas en reste. Comment ne pas citer une des plus grandes pop stars de tous les temps ? J'ai nommé David Bowie pour son rôle dans Labyrinthe en 86, entre autres 20 autres films, où il jouera Jarrett, le roi des gobelins. Le roi des goblins, comment on dit ? Goblins ou gobelins ?
Moi, j'irais des gobelins.
Gobelins, moi.
Des gobelins.
Des gobelins, mais chacun.
Dans cette comédie musicale d'Heroic Fantasy, devenu culte, mais aussi le plus grand rocker de l'histoire, j'ai nommé Elvis, qui a joué dans 31 films entre 1956 et 1969, soit 3 de plus que Ryan Gosling pour le moment. Ouais. Pour l'instant, Elvis, il a joué dans plus de films que Ryan Gosling.
Après, je crois que Gosling a joué dans des meilleurs films que.
Ouais. Est-ce qu'il a plus de charisme qu'Elvis? Ça, c'est la question.
Je pense pas.
Ah, je pense pas, ouais.
C'est, oh, dur, de, c'est dur de d'avoir un meilleur charisme. D'ailleurs, ouais, petite question pour vous, comme ça autour de table. La personnalité connue, femme ou homme, qui a le plus de charisme pour vous? La première qui vous vient à l'esprit comme ça?
Mais genre du cinéma?
Peu importe, ça tout peut être confondu. Musique, politique, bah, cinéma. C'est vraiment la personne qui a le plus de charisme.
Moi, c'est Raymond Barre à la base. Mais...
Ah ouais. Okay. Moi, c'est Barack Obama, je crois.
Ouais.
Oh. Ah, c'est Zizou.
Ah, mais lui, il rigole pas.
Hein,
en fait,
Zizou. Moi, Obama, ah, ouais, Zizou. Ouais,
ouais. Je vous que j'ai eu la chance d'être dans la même pièce que LeBron James.
Ouais. Ah, ouais.
Franchement, ouais, bah, quand il rentre dans la pièce, okay, il y a une sorte de.
Ça change. Ouais.
Où il aspire toute l'atmosphère et t'es là. Je vais pas parler, hein. Bonjour LeBron. Là j'avais vraiment zéro charisme à côté de lui. Non.
Est-ce que si tu l'avais, parce que là t'as dit bijou, c'est très bizarre de dire ça.
Bijou,
LeBron James.
Zéro charisme, non, mais je voulais dire
charisme, encore une fois.
Je voulais dire bisou et bonjour. C'est transformé en bijou. Et donc ouais, LeBron James.
Sortez-moi cet homme.
Et toi tu dirais quoi toi?
Bah c'est difficile à dire.
Arnold Schwarzenegger, non?
Bah ah ouais. Franchement je pense que si tu croises Schwarzy. Ouais, là, pareil, là, t'es dans la salle avec présent, lui, à mon avis. En plus, ouais, comme il est massif, comme t'as dit, Aurélien. Ouais, à mon avis, ça doit être quelque chose.
Mais quoi, tous ces gens, tu vois.
Mais maintenant, j'aurais tendance à dire Tom, tu vois, pour le coup, maintenant.
Ouais, c'est logique. Moi, j'ai failli dire moi-même, on aurait dit, bon, c'est un peu.
Peut-être
abusé,
que maintenant, Guillaume, dans un an, il dirait, bah, tu vois, un jour, j'étais dans une salle avec Tom. Ouais. Et quand il est là, il parle, il aspire l'ambiance.
Je suis pas sûr que Terminator 2 avec Tom, ce soit le même film, mais bon, après, chacun sa vision du truc, quoi.
Mais c'est très difficile, je trouve, de dissocier le charisme du parcours de la personne. Moi, en vrai, n'importe quel chef masculin ou homme, masculin ou féminin d'État, n'importe quel chef d'État, en vrai, tu vois, genre.
T'as
même
un problème
si
avec la politique, toi.
Genre Raffarin, genre.
Non, mais je prends cet exemple parce que j'ai pensé à Obama. Mais.
Raffarin. Non, je suis pas sûr que Bush, non, tu vois, t'es non.
Kadhafi, genre.
Ouais, mais tu vois, je suis sûr que Bush, en vrai, si tu le vois, il y a du charisme quand même.
Ouais,
tu
sais, mais
moi, je pense que tu peux
mais
pas arriver
en sais, tu sais que cette personne, elle a ouais. Tu vois, les États-Unis, tu vois, genre, c'était le leader des États-Unis à un moment. Tu vois.
Déjà, moi, je pense que pour arriver président des États-Unis, faut une forme de charisme dans le sens où c'est grâce aussi à ça que tu arrives à avoir des électeurs.
Ouais.
Quoi. Donc, n'importe qui est président, même le plus mauvais des présidents, a forcément une part de charisme, je pense.
Mais
tu penses pas que c'est les serpents qui se mordent la queue ou en fait, le fait que cette personne est présidente. Du coup, on lui rajoute énormément de charisme.
Bah, je sais pas, parce qu'il y a un chemin quand même pour y arriver, tu vois.
Et tu vois, Aurélien, il a eu 5, par exemple, au test.
Ouais, c'est vrai, okay.
Attention, elle ne le vexe pas, parce que.
Mais si Aurélien, il a fait
des États-Unis, par
non, mais s'il avait fait 10 films, s'il avait fait 10 films français et qu'on l'accueillait en mode j'en guest fait. Star, parce qu'il a fait plein de films français, mec, quoi qu'ils disent, on aurait été là, genre.
Donc ça veut dire que pour toi, Philippe Lachaud, il a du charisme, par exemple.
Après, pourquoi pas, j'ai jamais rencontré.
Je l'ai jamais rencontré.
Oh, Danny Boone.
Il lance une polémique.
Je sais pas, je trouve que c'est une bonne question, la question
moi,
du charisme.
Je pense quand même qu'il y a un joker à tout ce que tu viens de dire. C'est François Hollande. Bon.
ouais, mais.
Je suis pas d'accord.
Ouais.
Hein.
Ah ouais,
je pense que tu l'as en face, tu rigoles pas. Hein.
Ah ouais?
Non, mais par contre, j'avais lu une anecdote très drôle à propos de François Hollande. Valérie Trierweiler, c'est ça?
Ouais, c'est vrai.
Il n'est pas encore président, je crois, ou il va être élu président. Et Valérie Trierweiler présente son fils à François Hollande. Première fois que le fils de Trierweiler voit François Hollande, donc son nouveau beau-père. Il va dans une maison, quand ça, il est dans la maison de François Hollande. Et la première image qu'il a eue de lui, c'était François Hollande, pantalon retroussé jusqu'au genou, en train de nettoyer le fond de la piscine. Mmh. Et non, je crois qu'il était déjà président à l'époque. Et du coup, il s'est dit, bah, c'est le président, quoi. Et là, il est, tu vois, pantalon retroussé jusqu'au genou, en train de nettoyer la piscine. Et tu sais, il y a un côté où tu te dis, bah, nous, on n'imagine pas le président faire ça. Non. Alors que c'est un homme de tous les jours, finalement, comme vous et moi, quoi. Et donc là, est-ce qu'il y a du charisme? C'est toi qui parlais de François Hollande. Il a quand même du charisme quand il nettoie la piscine, comme ça?
Je pense que c'est un bon blagueur. Mais après, est-ce qu'il a le charisme?
Je pense souvent à ce genre de truc où tu te dis, tu vois, le pape, il n'est pas toujours habillé en pape. Il y a des jours où, tu sais, le matin, il est en slip.
Pour moi, il est tout le temps habillé en pape.
Juste en slip.
Mais moi, les présidents, j'y ai repensé l'autre fois quand je les imaginais dormir. Tu vois, j'ai imaginé Macron dormir, par exemple.
Ah ouais,
moi, on a l'impression qu'il dort jamais, en fait.
Non, mais c'est vrai que tu dis que pendant de 3 à 6 heures, la personne est totalement vulnérable à tout. Enfin, tu vois, elle est inerte.
Il fait des rêves.
C'est ouf, quoi.
Bah moi, c'est quoi ces rêves?
Mais moi, je me le suis dit la dernière fois. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais pensé à Tom Cruise. Parce que lui, c'est vraiment.
Il y a vraiment des témoignages, confessions.
Non, mais, complètement. Non, mais Tom Cruise, pour moi, c'est vraiment l'image du. Pas du mec parfait, mais du mec qui maîtrise tout. Il maîtrise sa communication. Il maîtrise ses films.
En question.
Il maîtrise son image. C'est assez incroyable. Et je me dis, bah, le matin, il se lève et tout, et puis il va à Yesh, quoi, tu vois. Et là, il est aux chiottes. Et tu sais, c'est une sale ambiance, quoi. Tu sais, il est dans ses chiottes, il est en train de chier et tout. Et là, c'est pas du tout Tom Cruise comme ambiance. Tu vois.
Il se met debout sur la cuvette.
Non, mais il fait ça, quoi, tu vois. Et c'est Tom Cruise qui est en train de chier. Et, ouais. Et puis, je sais pas, il match son tel.
On est tous égaux devant ça.
Exactement.
Toujours penser à ça. Quand vous êtes impressionné par quelqu'un, pensez à ça direct.
Bah, oui. Ouais,
le caca et la mort. C'est...
Vous êtes impressionné par Tom, direct.
Bah, tout de suite, un urinoir, ça change.
Voilà. Non, bien, eh bien, ouais. Je vous propose de reprendre la chronique. On l'avait laissé. Après ces histoires de chiottes, dans les chanteurs qui ont évidemment percé le cinéma, on peut citer Will Smith parce qu'on oublie trop souvent qu'il a commencé sa carrière en tant que rappeur dans Jazzy Jeff et The French Prince. Tu m'arrêtes si je me trompe.
Non, c'est ça. C'est ça.
Nom qui va donner naissance à la série qui va le propulser sur les marches de la gloire. Et depuis, il a enchaîné évidemment des énormes blockbusters, comme par exemple, lequel vous retenez par
Je suis une légende.
Man
in Black.
Independence Day.
Moi, c'est les deux films là, qu'il a fait avec ses fils. Là. Enfin, son fils.
La recherche du bonheur.
Ouais, mine de rien, Et Ali aussi, quand même. Les mecs.
Ali, incroyable.
Donc, j'ai une question pour vous. Savez-vous quel est son plus gros succès au box-office à Will Smith?
J'ai eu un petit flash. Pourquoi pas Hitch?
Tu penses que c'est Hitch? Son plus gros succès.
Je tente une petite folie.
C'est dépendant.
Wild Wild West.
Ok.
Je suis une légende.
Aladdin.
Ah bah oui, non, mais c'est
sûr. Non, en vrai, ça m'étonne pas.
J'avais oublié. Bien joué.
Aladdin, ouais. C'est fou, hein, quand on y pense. Parmi d'autres rappeurs qui ont fait du cinéma, on pense évidemment à Eminem dans 8 Miles, Snoop Dogg dans Training Day. Eh oui. Ice Cube dans 1000 films. Ice Cube, il en a fait vraiment.
Dans des bons films, hein, Boys in the Hood par exemple.
Ouais, il a fait des très très bons films.
D'autres moins bien.
Les membres d'Outkast dans Idlewild Gangster Club que je n'ai pas vu. Je ne sais pas si tu as vu ce film. Apparemment, c'est vraiment pas mal.
Ouais.
Mos Def dans Soyez sympa en bobinet. Et plus largement, Jamie Foxx dans le rôle de Red Charles. Justin Timberlake dans Social Network. John Legend dans La La Land, on l'a dit. Ou moins attendu, Mark Wahlberg, qui a tout de même commencé sa carrière en 1990.
Marky Mark.
Dans le groupe Marky Mark and the Funky Bunch. Alors, on va pas parler que des Américains non plus. En France aussi, le passage du micro à l'écran est monnaie courante. Et on pense à Joe Star, Johnny Hallyday, Louane, Jack Brel, Alain Souchon, Marc Lavoine, Patrick Bruel ou encore Ophélie Winter. Ophélie Winter dans le film Bouge en 1997.
Ah, c'est vrai, c'était lourd ça.
Eh oui, énorme film.
Grand classique.
Grand classique. Vous comprendrez comme moi qu'on ne peut pas tous les citer parce que c'est bien la deuxième partie de cette chronique qui nous intéresse. En vrai, on ne va pas se mentir, les chanteurs au cinéma qui sont couronnés de succès, c'est sympa. Mais quid des acteurs qui sortent des disques? Et là, on va pouvoir se marrer un peu. On commence par Bruce Willis, qui a sorti un album de rock and roll. Un album de rock and roll.
Mais j'aime bien, mais tu sais que j'ai l'album chez moi. J'ai la cassette audio.
Signé chez Motown en 1987, nommé The Return of Bruno, le retour de Bruno.
Mais c'est qui Bruno? Pourquoi il revient?
C'est son vrai prénom. C'est son, son homonyme. Il chante en tant que Bruno dans l'album. Mais
j'y connais rien, moi.
Ouais.
C'est un mec qui a pris un prénom stylé, qui a pris un pseudo nul, c'est rare ce genre de move.
Et en fait,
parce que Bruno aux États-Unis, c'est cool. Hein.
Et en fait,
Bruno.
On pourrait vouloir se moquer, mais en fait, c'est super bien.
Ah ouais?
Moi, j'adore. C'est vrai, il joue de l'harmonica beaucoup, Bruce Willis.
Ouais. Ah ouais. Et donc, mais c'est quand même signé chez Motown. C'est fou.
Ouais, j'avoue,
et
c'est quand il a fait Motown, j'ai fait wow.
Il a fait une vidéo live.
Qu'est-ce qu'on apprend des choses?
Le début de son live, c'est présenté par Michael J. Fox, qui dit ouais, les gars, on va regarder une cassette et tout, c'est un truc de ouf et tout. Vous pouvez le trouver sur YouTube, c'est assez cool. Et franchement, c'est bien quoi. Et sur scène, il est hyper bon.
Alors attention, extrait. Under the boat. Et en plus, Bruce Willis, qui avait un deal avec Planet Hollywood, avec Stallone, Schwarzy dans les années 90, avait l'habitude de jouer sur scène lorsqu'un restaurant s'ouvrait.
Ah ouais?
Voilà.
Alors, je suis désolé, j'ai pas entendu l'extrait, moi.
Oui, mais...
Bien joué. Bruce Willis, je dirais 10 sur 10 en charisme, peut-être.
Ah oui.
Ouais, ça va.
On va enchaîner avec une autre star, Eddie Murphy, évidemment, qui a quand même sorti 3 albums, dont on ne retiendra que le hit absolu. Savez-vous lequel est-il? En 1985, il sort... Party All The Time. Vous connaissez cette chanson?
Ouais, avec Rick James.
My girls want to party all the time, party all the time, party all the time. Tu vois cette chanson?
Extrait pour voir si ça ressemble.
Tu chantes tellement bien, tu chantes mieux qu'Aurélien. Ouais,
c'est vrai. My girl wants to party all the time. Totalement vrai.
Bah, énorme tube.
Ouais.
Énorme tube cette chanson. Bon, pour l'instant, c'est un sans faute. Alors, on va
faire la suite de la chronique en chantant.
On va continuer avec Joe Pesci. Eh ouais.
Ah,
Joe Pesci, il a sorti 3 albums. Non, pas les Blues Brothers.
Pardon.
Joe Pesci.
Oh là là.
Wow, Joe Pesci des Blues Brothers qui a sorti 3 albums. Lui aussi, dont un album de cha-cha qui s'appelle Vincent La Guardia Gambini Sings Just For You, avec un accent horrible que je viens de faire en 1998. Et encore une fois, c'est plutôt absurde, Mais c'est pas mal.
Mais en vrai, il a toujours été dans la musique, Joe Pesci.
Oui, on parce que tu l'avais dit dans une chronique, ouais, ouais. Et il a rappé.
En fait, c'est un pote à Frankie Valli et toute l'équipe, c'était leur manager, il chantait avec eux au départ. Donc, il a toujours été dans la musique, en fait.
Ouais, on s'en souvient, tu en avais parlé dans le podcast « Maman, j'ai raté l'avion ». Donc, si vous n'avez pas écouté ce podcast, voilà. tu reviens plus longuement sur Joe Pesci et la musique.
Super. Par contre, le nom de son album est beaucoup trop long pour être demandé à la FNAC.
Oui.
Clairement, il aurait dû raccourcir.
Je ne suis pas sûr que tu le trouves à la FNAC, par contre.
Mais je suis sûr qu'ils sont potes avec les Blues Brothers.
Yes.
Je suis sûr.
Ouais, tu t'y connais, en tout cas. Bon, et bref, du coup, on ne peut pas vraiment se moquer. Joe Pesci, Eddie Murphy, Bruce Willis, on ne va pas chercher du côté de Ryan Gosling, qui réussit tout ce qu'il entreprend, puisque même son groupe Dead Mad Bones est génial.
Ouais, il est cool.
Ah bon,
il est vraiment bien.
C'est quoi
c'est
comme
la musique un peu trees folk.
Ouais, hyper beau. Ouais. Non, mais trop talentueux. Qu'est-ce qu'il a, Ryan Gosling, en fait? Il a un défaut?
Non, enfin, il a zéro défaut.
Bah, il sourit pas souvent, quand même.
Zéro défaut.
Mais alors peut-être qu'il a une petite tête.
Ah, bon, ben. Bah,
voilà. Oh non. Deuxième polémique. Hein.
Deuxième polémique. Et donc, on peut peut-être chercher du côté de Steven Seagal. Ah ouais!
Mais Steven Seagal,
Eh ben, Steven Seagal qui chante du blues. Et franchement, je voulais me moquer. Mais c'est toujours pas mal du tout. Et en plus, vous savez quoi? Sur son album, Steven Seagal, il a un invité qui fait de l'harmonica. Et vous savez qui c'est?
Bruce Willis. Bruce Willis.
Stevie Wonder. Ah, bah ouais, mon gars! Stevie Wonder qui joue de l'harmonica sur l'album Song from the Crystal Cave. Et on écoute un extrait. I must be on a slow boat to China. Baby, why can't you give me what I need? Mais franchement, c'est cool, moi j'aime bien.
Ouais, mais en fait, bon voilà.
Moi, j'arrive pas à savoir, vraiment.
vous l'avez compris.
Expliquer la blague de Cyrus, c'est qu'en fait, moi je rajoute les sons au montage, et du coup, quand on dit extrait, il n'y a rien. Et on enchaîne la chronique.
Mais donc, tout le monde est trop fort, donc on ne peut pas vraiment se moquer. Mais si vous voulez vous moquer, j'en ai un petit dernier, mais on ne peut pas se moquer. On ne va pas se moquer, d'accord? Samina Seri, il a fait un album de slam.
Oh non,
c'est vrai. Ben ouais, mais on peut pas se moquer. On s'est pas moqué. Chacun ses goûts. Voilà, vive la France et bravo à tous.
Merci Guillaume.
Bravo.
D'ailleurs, on applaudit aussi pour celle d'Aurélien. On n'a pas applaudi.
Oui,
pas
oui,
pas
oui, oui
donc, bon. On applaudit pour le charisme.
On applaudit
aussi.
Le charisme. Voilà.
Messieurs, c'est bientôt la fin de ce podcast.
Oh oh
mais, oui, mais ça me rend triste. Ça me rend triste.
Mais mec, attends, on n'a pas encore
parlé de la
les analyses.
Moi, j'avais gratté deux pages d'analyse. Et
non, ça sert à rien.
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un Wheel of TFTC ne peut pas se terminer sans quelques infos croustillantes à propos du film du jour. Voici donc quelques raretés concernant La La Land. Est-ce que vous êtes prêts?
Je suis très prêt.
La musique du film est donc brillamment composée par Justin Hurwitz, qui s'était déjà occupé de l'extraordinaire Whiplash et qui avait également écrit une musique que j'avais trouvée hyper intéressante pour First Man. Il a donc l'habitude de travailler avec Damien Chazelle et cela est finalement assez logique car ils se sont rencontrés à Harvard et ont par la suite été colocataires. Rencontre à Harvard, je trouve ça formidable ce genre d'histoire. Mm. Toi par exemple, je t'ai pas rencontré à Harvard, Guillaume. Pas du tout.
Non, j'y suis pas allé du coup. Donc,
non, oui, bah, j'aurais aimé qu'on se rencontre là-bas, mais non. Comment vous êtes rencontrés d'ailleurs, Tom et Cyrus?
Waouh, ça.
On s'est rencontrés en stage dans une agence de communication bordelaise.
Exactement. Qui s'appelle Citron Pressé, on les embrasse.
Ouais, on les embrasse.
Ok.
Petite agence vraiment. Voilà. Oui.
Vous êtes tapé des barres, donc je m'attendais à une grosse info.
Non, en fait,
j'ai eu un flash en fait où je me suis vu standardiste.
Ouais, c'était une manette de Proust que tu nous as envoyé très vite à la tête, tu vois. Okay. Fallait qu'on...
La vraie histoire, c'est qu'il se faisait racketter et Tom, il a fait. Il y a un problème.
Mais pas de son froide.
La fameuse scène durant laquelle a été tournée une chorégraphie sur les hauteurs de Hollywood Hills a été réalisée en une heure seulement. Je vous explique, Damien Chazelle souhaitait tourner durant ce qu'on appelle l'heure magique. L'heure magique, c'est ce court moment où le soleil se couche ou se lève. Et ça dure à peu près 30 minutes. Ils ont donc eu besoin de 2 jours, 2 fois 30 minutes. Et c'est une sacrée performance de rentrer 2 scènes aussi pointilleuses en une si petite durée de temps. Et pour ceux que ça intéresse, le réalisateur Terrence Malick est un habitué des tournages se déroulant durant cette fameuse heure magique. Son sublime film Days of Heaven a été pratiquement réalisé entièrement de cette façon. Et je conseille à chacun d'entre vous qui ne l'aurait pas vu ce chef-d'œuvre, si ce n'est déjà fait. Voilà.
Trop beau.
Cette fameuse heure magique.
Golden Hour.
Bah ouais.
En même temps, t'es vraiment un américain.
Et en espagnol, c'est quoi du coup? Ouais. La hora magica.
Oh là là.
Dans le film, il y a une scène durant laquelle le personnage incarné par Emma Stone passe un casting et se met à pleurer pour jouer le texte. moment durant lequel un casteur répond au téléphone durant sa performance. Eh bien, cette scène est inspirée d'un moment qu'a réellement vécu Ryan Gosling il y a quelques années et qui a été récupéré par Damien Chazelle. Donc je trouve que le mec quand même qui a répondu au téléphone pendant que Gosling jouait a du charisme.
On peut le dire. Clair. Mais il aurait pu avoir du fric à la place. Il
a, oui, bah, tu
choisi.
Il a fait son choix. Pour la scène d'ouverture, Damien Chazelle ne sautait pas de fond vert et a demandé à pouvoir fermer l'autoroute afin de tourner une gigantesque chorégraphie se déroulant dans des embouteillages. Il a eu l'accord de la ville et a tourné ça un dimanche matin, moment où le trafic est moindre à Los Angeles. Et je trouve ça cool parce que Cyrus t'en parlait tout à l'heure, je sais plus qui en parlait, je dis Cyrus parce que là, pour le coup, tu vois, t'avais du charisme à mes yeux et j'ai eu envie de te citer.
Ouais. Ah, ça me touche, putain.
Non, quelqu'un tout à l'heure disait que...
C'est moi.
Bah, c'est toi. Non, que la scène de fin était très bien exécuté et qu'il y avait une richesse de plans, de décors, etc.
Qui a dit ça ?
Et ben c'est toi qui as du charisme.
Oh, ouais, ok. Je m'en rappelle
Non, c'est pas toi qui as dit la scène de fin est très bien.
J'ai dit qu'elle était très bien réalisée après.
Ouais, je crois que c'est Guillaume.
Ouais, voilà.
Cette émission.
J'ai pas de charisme parce qu'il a cité tous les autres sauf moi. C'est catastrophique.
J'avoue, c'est pas le mec.
C'est moi, tranquille.
Moi, je crois que c'est nous tous. Je crois que c'est nous tous et c'est tous un énorme charisme ici.
En tout cas, il faut avoir beaucoup de charisme pour pouvoir dire bon, je vais faire une scène dimanche, est-ce qu'on peut bloquer l'autoroute ?
Ouais, oui, clairement. Mais non, mais ça qui est cool avec ce film, c'est qu'on sent que Chazelle, il souhaitait faire un truc un peu organique et utiliser des décors, utiliser du carton, du papier, là un vrai autoroute, pas de fond vert, etc. Et je trouve ça très cool, quoi.
Ouais. Mais en fait, on a envie de sortir des trucs, mais on sait pas si tu vas les dire ou pas.
C'est-à-dire ?
Bah, sur le film, genre, je voulais rebondir sur un truc par rapport au lien entre La La Land et Chazelle, mais je sais pas si tu vas le dire.
Non, mais vas-y, dis-le.
Ok. Non, mais ça montre à quel point La La Land, enfin Chazelle tient à La La Land, puisqu'en plus, il a écrit La La Land avant Whiplash. C'est genre le premier film qu'il a écrit. Et en fait, Whiplash, pour lui, c'était une sorte de mise en bouche, si tu veux, avec un budget beaucoup bien moindre par rapport à La La Land. Et son vrai film, c'est La La Land, tu vois. Sa masterpiece, c'est La La Land.
D'ailleurs, à la base, c'était le très bon acteur Miles Teller qu'on peut voir dans Whiplash, qui devait interpréter le rôle de Ryan Gosling.
À la base.
À la base.
Et Emma Watson.
Et Emma Watson, ouais.
Ah, elle a interprété le rôle d'Emma Stone. Ouais. Elle a préféré faire La Belle et la Bête.
Ouais, exactement. C'est l'échec. Et lui, il n'a pas pu à cause de trucs de contrat, apparemment.
Ah bon?
Elle était bien cette page Wikipédia.
Alors.
Très riche en informations cette page Wikipédia. Moi, je pensais que c'était JB qui l'avait écrite.
Figurez-vous que La La Land existe aussi en version iPhone, car pour chaque répétition, la veille, Damien Chazelle filmait les scènes avec son iPhone pour pouvoir se les remater le soir. Donc, s'il a encore toutes ses vidéos dans son tel et qu'on en fait un montage, bah, ça fait un La La Land, mais version iPhone. Un La La Land un peu cheap, mais toutes les scènes sont dans son iPhone. Voilà. Ça, c'est marrant. Et enfin, pour finir, une petite info qui met à l'honneur la France, puisque l'inspiration première de Chazelle au moment de réaliser La La Land était Les Parapluies de Cherbourg, film réalisé par Jacques Demy et sorti en 1964. Car Damien Chazelle est franco-américain et son père, Bernard Chazelle, est un Français né à Clamart, figurez-vous, informaticien et mathématicien très réputé dans le milieu et aussi un des pionniers de la géométrie algorithmique. Je cite... Il est notamment connu pour son algorithme de triangulation d'un polygone en temps linéaire, ses résultats en théorie dans la discrépance et son algorithme rapide pour le problème de l'arbre couvrant de poids minimal. Je n'ai absolument rien compris à ce que je viens de lire.
Je ne savais pas que c'était lui, surtout.
Et donc, voilà. Et donc, du coup, il y a des vidéos sur YouTube où on peut entendre le père de Damien Chazelle parler en français, parce que c'est un français de maths. Et en regardant ces vidéos, je me disais, bah, tu imagines comment t'es fier ? Ton fils a 31 ans, il gagne l'Oscar du meilleur réalisateur. Toi, t'es un mathématicien réputé. Bon, bah, c'est quoi cette famille,
ça
quoi.
Ça veut dire que tu peux te balader à Clamart et voir Damien Chazelle, quoi.
C'est très possible.
Surtout, sa mère, elle a une crêperie dans le bronzé fond du ski.
Non, mais c'est ça, c'est surtout que ça. Il y a vraiment un lien, en fait.
Non, mais ce que tu dis, Guillaume, je me le suis dit aussi pour Timothée Chalamet, parce que sa famille vient de Saint-Étienne. Et donc, possiblement, s'il rend visite à Saint-Étienne, à sa famille, bah, tu peux le croiser dans la rue, quoi. Ça, c'est marrant, non?
C'est vrai.
Clamart et Saint-Étienne, si vous voulez traîner à des endroits famous de France. Voilà, c'était la dernière info et déjà la fin de ce podcast qui touche à sa fin.
C'est trop vite.
Cyrus et Tom, merci d'être venus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre actu ?
Non, attends, mais moi j'ai un truc à dire avant.
Ah.
Un truc qu'on n'a pas dit et que j'ai capté en repensant un petit peu à tout ça, à La La Land et tout. Et notamment en regardant une vidéo... Je la fais courte. Je suis censé être court là, non ?
Non, vas-y. T'as tout le temps que tu souhaites.
Ok.
Revenir sur le travail du père de Damien Chazelle, la triangulation où vraiment.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est le côté linéaire du truc qui n'avait pas été.
Et ça.
Non, en vrai, j'étais il y a pas si longtemps que ça. J'étais retourné dans mon école à Bordeaux et il y a un gars qui a commencé à me parler et que je l'ai encouragé à faire des vidéos, tu vois. Et ce mec-là, il m'a envoyé un lien sur LinkedIn. Et je me suis connecté hier à LinkedIn. Genre, j'y vais une fois tous les trois mois, je pense. Tu vois. Et il m'a dit, ouais, donne-moi un retour, etc. Et je regarde. Et qu'est-ce que c'est? C'est une vidéo d'analyse sur La La Land. Donc, incroyable.
C'est fou.
Et ça, c'était hier. Et d'ailleurs, le premier commentaire, c'est le nom de sa chaîne. Malheureusement, j'en souviens plus. Mais je te...
C'est dommage, quoi. Ouais. T'es passé à ça d'avoir une promo, mec.
Allez, c'est taper LinkedIn La La Land.
Non, mais par contre, j'ai le nom de l'émission. La La Non, mais j'ai le nom de l'émission. J'ai pas le nom de la chaîne, mais j'ai le nom de l'émission.
Bah, vas-y.
Je vais te le dire, Mais en gros, il y avait le nom de la chaîne et quelqu'un qui a écrit le nom de la chaîne supérieur, égal, supérieur à Tales from the Click.
Attends, quoi, c'est quoi ce truc?
Non, mais et du coup, ça m'a trop fait rire.
C'est un prank.
C'est-à-dire que, genre, vu que t'es une référence dans l'analyse de film, le gars a fait une petite blague.
Là, ce qu'il vient de faire, c'est catastrophique. Il n'a pas fait la promo du gars, il vient descendre l'émission dans laquelle il est lui-même.
Ouais. Mais non, c'est une blague.
Il y a des chances que je coupe ça au montage, je te le dis.
Attends,
on n'est pas en direct ici, donc j'ai tout le pouvoir en fait.
Je les signe son nombre.
Je continue. Et donc, l'émission s'appelle.
Il est là ce soir.
C'est un truc genre quand la musique galoche le cinoche, un truc comme ça. Et en fait, non,
c'est pas ça le titre. Tu dis n'importe quoi, ça existe pas.
Je te jure, tu tapes cinoche galoche, tu trouves.
Wow.
Super actu.
Attends, laisse-moi finir. Et en gros, parce que le mec est fan à la fois de musique et à la fois de ciné.
Et de genoux, apparemment.
Et du coup, c'est hyper. Et donc, c'est pour ça qu'il commence par La La Land. Et donc, on en a parlé, en fait, tout au long du podcast. Et à un moment, il dit un truc que je trouve hyper fort. C'est donc, on a parlé de ce lien entre le cinéma et la musique, notamment dans ta chronique, Aurélien. Et. Il y a un truc qui est hyper fort, c'est que dans La La Land transpire ça, de par sa création, entre Chazelle et son pote Justin, c'est ça ?
Mm-hmm.
Voilà, tu vois, t'as tout ce truc-là, mais t'as aussi, en fait, Emma Stone et Ryan Gosling. Bah, Emma Stone, c'est le cinéma, Ryan Gosling, c'est la musique, tu vois, parce que Emma Stone, son but, c'est d'être actrice, alors que Ryan Gosling, lui, c'est d'être musicien. Et tu vois, c'est vraiment cette histoire d'amour entre les deux.
En vrai, son rêve, c'est plus de tenir un club de jazz dans le film.
Ah, je me casse.
Donc je vais mettre un très mauvais commentaire sur la vidéo.
Cinéma galoche, c'est bon, on remballe, allez, c'est bon.
Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en fait, ce film est vraiment le symbole de l'union entre la musique et le cinéma. Et c'est pour ça, que, d'ailleurs, qu'il le dit dans la vidéo, Chazelle, son meilleur moment pendant les Golden Globes, ou pendant les Oscars, je sais plus, c'est quand son pote, quand Justin, a eu l'Oscar de la meilleure musique. Parce que tu vois, c'est un peu la consécration du... la musique va avec, va avec l'image, et La La Land en est le symbole, quoi.
Mm. Très bien.
Il s'est arrêté à genre Cinoche Galoche supérieur à Tales from the Click.
Moi, j'écoutais plus après,
personnellement. La pire réponse du. Là, il est en train de se dire pour envoyer le texto à cinochegalage.com.
Il est en train de se dire attends, donc si je le mets pas dans l'émission, je coupe où? Ok, c'est bon.
Alors, au niveau de l'actu.
Au niveau de l'actu.
Comment ça se passe au niveau de l'actu?
Je suis tellement coupé, putain.
Je suis dégoûté. Je trouve que l'analyse était juste.
Mais oui, qu'elle était juste, bien sûr.
L'actu. Alors, vas-y, Tom.
Vas-y. Bah, je t'en prie, là, t'es chaud.
L'actu. Écoute, moi, je continue à sortir des vidéos toutes les deux semaines à peu près sur ma chaîne YouTube, tranquillement.
J'ai regardé hier ta vidéo sur la calvitie. J'ai trouvé cool.
C'est vrai.
Ouais.
Ah bah merci, mec.
C'est plus de la philo.
C'est gentil.
C'est passé à autre chose. C'est des vidéos quoi.
Grosse miniature calvitie, ouais, avec une flèche rouge et tout.
Bah, l'idée, c'est de partir d'éléments du quotidien, okay. Ou parfois, tu vois, genre des questionnements contemporains.
Des réflexions contemporaines.
Voilà, réflexions contemporaines, c'est le mot, exact. Tu vois, donc là, ça peut parler de calvitie, mais j'ai aussi parlé de solitude, j'ai aussi parlé de des réseaux sociaux, ce genre de choses, tu vois.
C'est pas une chaîne de look, machin, calvitie, cinq remèdes,
les contours. Non.
Tom.
L'actu, bah, c'est le meilleur podcast qui, on l'espère, va revenir après ces semaines et ces mois d'attente, qui va revenir vite. Je bosse pour Golden. Allez voir ce qui se passe. On sort des reportages et des docus cool. Et un premier court-métrage que j'ai co-écrit qui devait sortir cet été, normalement.
Ok. Il y a une date ou pas?
Non.
Okay,
en août.
Très bien. Quant à nous, je suis au grand regret de vous annoncer que cet épisode était le dernier. Oh. Alors attention, pas le dernier à vie, pas le dernier à vie. Mais en tout cas, le dernier avant septembre, car c'est les vacances. Vous allez donc beaucoup nous manquer jusqu'à notre retour qui aura lieu le jeudi 10 septembre pour la rentrée. Voilà, ça c'est pour le podcast, mais sachez que la chaîne Tel Somme de Clic, elle, n'est pas en vacances, car un Vidéostore est sorti le 15 juillet dernier. C'était le grand retour de Vidéostore avec Titanic pour sujet et Panayotis Pasco et Amy LTR en invité. Il y aura également un Behind the Peak le 5 août et un Tabs spécial Morgan Freeman le 19 août. Je vous souhaite donc à toutes et à tous de bonnes vacances. Si vous cherchez des idées de films, il y a le Cinématcher sur le site de We Love Cinema. Et on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.
Salut. Bisous, bisous.
Bonnes vacances.
Ciao.